I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline. Aujourd'hui sur CNews, la réforme des retraites, vous l'avez vu il y a quelques instants sur notre antenne, entre avec fracas à l'Assemblée nationale. Le texte le plus controversé du quinquennat Macron provoque la zizanie parmi les députés. On va revenir sur le fond de la réforme. On verra aussi ce que la Première ministre est prête à lâcher sur les carrières longues. Pour obtenir les votes des LR, une chose est sûre, l'hostilité des Français à cette réforme ne se dément pas. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation demain dans la rue, mais aussi dans les transports en commun et dans les administrations. On fait le point ce soir, juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est 17h et c'est Adrien Spiteri qui est là pour nous.
C'est le jour J pour la réforme des retraites. Les débats ont démarré ce lundi devant l'Assemblée nationale. Deux semaines d'échanges sont prévues. La séance a démarré dans un climat tendu par une série de rappels au règlement. Demain, une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme est attendue sur le territoire. Des centaines de policiers se rassemblent ce lundi en France. Ils protestent contre la réforme de la police judiciaire. La semaine dernière, deux rapports jugeaient le projet inadapté. Ils prévoient de placer tous les services de police d'un département sous l'autorité d'un seul directeur départemental de la police nationale. Le procès de l'incendie de la rue Erlanger s'ouvre aujourd'hui à Paris. 10 personnes avaient perdu la vie dans la nuit du 4 au 5 février 2019. Il avait été provoqué par une habitante souffrant de troubles psychiatriques. La suspecte était déjà connue des services de police. Et puis le bilan continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie. Ce matin, un séisme de magnitude 7,8 a touché les deux pays. Un autre tremblement de terre a frappé la Turquie en fin de matinée. Plus de 2000 personnes ont perdu la vie. De nombreux pays se mobilisent pour leur venir en aide. La France va envoyer 139 secouristes en Turquie.
Merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. On est avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir,
bonsoir Louis. Laurence.
Avec Florian Tardif, journaliste politique CNews. Bonsoir. Bonsoir et Eric Revel, journaliste.
Bonsoir Laurence.
Alors, on va évoquer évidemment ce bazar, il n'y a pas d'autre mot, qui est en train de se dérouler à l'Assemblée nationale. On pensait qu'il serait question de la réforme des retraites. Eh bien non, a priori. On se bagarre sur d'autres thèmes, sur le fait qu'une motion référendaire soit votée ou non par les uns ou par les autres. On est en direct avec Gauthier Lebret, qui est sur place avec Léo Marcheguet à l'Assemblée nationale. Oui, mon cher Gauthier, pardon, vous êtes absolument inimitable, donc je ne peux pas vous confondre avec Florian qui est sur ce plateau. Racontez-nous ce qui est en train de se passer, parce que ça paraît hallucinant, et je ne sais pas que si les Français vont apprécier le spectacle qu'ils ont sous les yeux, alors que eux, ils savent que c'est 2 ans de plus pour eux pour cette réforme. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée en ce moment, Gauthier ?
Bien, c'est absolument ça, Laurence. Il y a à peine 10 jours de débat dans l'hémicycle et là, on passe du temps sur des motions référendaires. Certains députés écolos avaient promis de transformer l'Assemblée en ZAD. Eh bien, on y est quelque part. Gérald Darmanin avait dénoncé la bordélisation des débats du côté de la NUPES. On y est, disent les députés Renaissance. Alors, je vous raconte ce qui s'est passé. En milieu d'après-midi, le groupe Liot a décidé de déposer une nouvelle motion référendaire en soutien, eh bien, avec le soutien de tous les autres groupes d'opposition, sauf, évidemment, celui du RN, puisque c'est la motion référendaire du RN qui va être débattue tout à l'heure à l'Assemblée. La semaine dernière, 2 motions référendaires ont été déposées, une de la NUPES et l'autre du Rassemblement National. Yael Braun-Pivet a donc décidé d'organiser un tirage au sort pour qu'une seule une seule motion soit débattue, et c'est le RN qui a eu la main heureuse et qui a donc gagné ce tirage au sort. Évidemment, hors de question pour la NUPES de mélanger ses voix avec celles du Rassemblement National. Du coup, ils ont trouvé ce subterfuge avec le groupe Liot en déposer une nouvelle aujourd'hui. Et donc,
Yann Rodriguez
a fait le choix de ne pas la recevoir.
C'est quoi le groupe Liot ? C'est un copain à vous ou pas ?
Le groupe Liot, c'est le groupe de Charles... Pardon ?
C'est quoi le groupe Liot ? Expliquez-nous.
Le groupe Lyot, c'est un groupe qui reprend notamment les députés d'outre-mer, des territoires. C'est un groupe, eh bien, avec notamment Charles de Courson, qui est la figure la plus médiatique de ce groupe. Voilà, assez hétérogène, qui reprend différentes sensibilités. Mais au lieu d'être non inscrit, bah, vous vous mettez dans le groupe Lyot, comme ça, vous avez plus de temps de parole, pour faire simple. Et donc, avec ce groupe Lyot, les autres oppositions, hormis le Rassemblement National, ont signé donc une nouvelle motion référendaire. Nouvelle motion référendaire, ils demandaient, c'est le groupe Lyot et les autres groupes, un nouveau tirage au sort. Eh bien, refusé par Yael Braun-Pivet. C'est bien la motion référendaire du RN qui sera débattue tout à l'heure. Et donc, ça a provoqué, eh bien, des esclandres dans l'hémicycle, la colère de la NUPES. On est dans l'Assemblée, on n'est pas dans une manifestation, a rétorqué Yael Braun-Pivet. Elle leur a demandé ensuite, ça va durer 2 semaines? Oui, répondent les députés de la NUPES. Un député de l'opposition me disait il y a quelques instants, juste avant que je prenne l'antenne avec vous, Laurence, avec un tel niveau de tension, ça va jamais durer 2 semaines comme ça ici à l'Assemblée.
Merci beaucoup Gauthier Lebret avec Léo Marcheguet à l'Assemblée nationale. Quel bazar. Mais que vont penser les Français? Je ne sais pas. On va en débattre dans un instant. On va juste écouter l'ambiance. On voit d'abord, je ne sais pas si on a Yael Braun-Pivet qui répond aux interpellations des députés qui ne cessent de la harceler sur cette histoire de motion référendaire. Si Céline Jeannot peut me dire si on a un petit bout de Yael Braun-Pivet et du bazar à l'Assemblée, on écoute, comme ça on aura la couleur, l'ambiance.
La conférence des présidents s'est prononcée sur la façon dont il fallait choisir entre ces deux motions référendaires qui étaient régulièrement déposées au moment de la conférence des présidents. Et nous avons décidé d'effectuer un parallélisme avec ce qui est la pratique pour les motions de rejet. Nous avons procédé à un tirage au sort. Ce tirage au sort ne vous a pas été favorable et c'est le sort.
Voilà, bon, alors on va essayer de faire court les uns et les autres parce que c'est de la pop politique, comme je dis. Et moi, je trouve ça navrant parce que les Français, ils savent de quoi on parle. Ils parlent de leur, on parle de leur vie, de la pénibilité au travail. Et là, ils sont en train de s'écharper, Louis de Ragnel, sur je ne veux pas voter avec le RN, mais je suis la NUPES. Donc, mais enfin, est-ce qu'on
on
marche sur la tête? On parle même
c'est
pas des retraites.
C'est voter une motion référendaire mais sur la question de
le
pour
temps
ou contre
qu'on perd. C'est hallucinant. Je ne l'ai même pas.
Alors attendez, Laurence.
Mais quel spectacle!
Alors, il y a ce qui est normal, c'est-à-dire que tout ce type de texte, normalement, on commence toujours par des éléments un peu de procédure. Et un chef de groupe parlementaire, par exemple, le chef de groupe Les Républicains, a le droit de dire attention, je vous mets en alerte sur tel ou tel aspect de procédure, de manière d'organiser les débats. Donc ça, c'est le premier élément. Et effectivement, si vous voulez, tout le monde a envie d'en découdre. Tous les groupes politiques se disent enfin, on va pouvoir se faire le gouvernement.
On dirait Astérix, Gaulois.
C'est pareil. Moi, hier soir, j'ai appelé plusieurs ministres pour essayer d'avoir la tonalité un peu de ce qui va se passer. Et il y en a un qui m'a dit, mais moi, j'ai hâte de me faire la NUPES. Il me disait ça comme ça. Et donc, il y a un climat explosif avec, d'un côté, les oppositions aussi qui se sont refait la cerise pour certaines d'entre eux, certains partis sur la question de la réforme des retraites. J'entends, et le gouvernement qui se dit, on s'est fait cracher dessus pendant des mois et des mois. Enfin, on va pouvoir se battre.
Mais tout ça,
je suis d'accord avec vous. Mais c'est de la politique politique. Parce qu'on n'a pas encore commencé à parler du fond.
On effectivement, parle pas des Français. Ils regardent le nombril, les uns et les autres.
Je suis d'accord. Alors, et après, je ne suis pas en train de défendre ce qu'on voit, mais le théâtre peut aussi faire partie de la vie politique. Oui, et les débats passionnés sont souvent liés à des sujets de tension dans la société.
Le droit à l'IVG, qui... Mais là, on ne parle pas de grandes réformes, on parle de...
Tout le monde, vous avez remarqué, Laurence. Non, mais cette réforme...
Non, pas tout le monde.
Oh, bah, non, mais attendez, il y a un peu plus d'1 million de Français dans la rue, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu selon la police.
Ça me met en colère.
Les gens sont très en colère. Vous avez le gouvernement qui veut rien lâcher. Emmanuel Macron qui joue son quinquennat à travers cette réforme des retraites. Donc, il y a énormément une somme d'intérêts qui se télescope.
Il y a beaucoup de tension. C'est ce que j'ai compris de ce que vous voulez nous dire. Est-ce qu'on a un autre extrait de, peut-être, d'intervention de Yael Braun-Pivet où c'est difficile? Allez, on écoute et puis je vous passe la parole, Florian Eric.
Je ne sais pas, mes chers collègues, où est le déni de démocratie quand la présidente de l'Assemblée nationale ne peut pas s'exprimer dans l'hémicycle. Donc, nous avons... Nous avons donc procédé à deux votes. Le premier vote était pour savoir si nous pouvions accepter le dépôt de deux motions référendaires. Et nous avons la conférence... La conférence des présidents, par un premier vote, à une large majorité, a admis le dépôt de plusieurs motions référendaires, ce que vous contestez. J'observe que sur ce point, finalement, vous vous rangez à la décision de la conférence des présidents, puisque vous en avez déposé une troisième et que vous soutenez aujourd'hui le dépôt d'une troisième motion référendaire, alors que la semaine dernière, vous déniez la possibilité d'en déposer une deuxième.
Voilà, chers amis téléspectateurs, ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. On va peut-être essayer de remettre l'église au centre du village. C'est quoi cette motion référendaire qui fait qu'ils s'empaillent tous les uns et les autres, Florian Tardif?
Oui, je disais à l'instant qu'on était spécialiste Covid, presque spécialiste retraite, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore tout spécialiste du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Alors, c'est assez complexe. Qu'est-ce qu'une motion référendaire? Voilà. C'est une proposition signée par au moins un dixième des députés, donc 58 députés, qui propose de soumettre au vote la proposition d'organiser un référendum sur une question, en l'occurrence sur la réforme des retraites. Voilà. Il y a eu plusieurs motions référendaires qui ont été déposées, donc ça, on a tous compris, sauf que c'est une première au sein de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de règlement pour savoir lesquels des deux il fallait proposer, soumettre au vote de l'Assemblée nationale. Donc la présidente de l'Assemblée a expliqué, est-ce que vous souhaitez que nous organisions un tirage au sort? Les présidents de groupe ont dit, ok, tirage au sort, et parmi les deux motions référendaires qui ont été déposées, une des députés de gauche, l'autre des députés du Rassemblement national, c'est celle du Rassemblement national.
Juste une petite précision quand même, sachant qu'aucune n'a de chance d'aboutir.
Non, mais parce qu'il faut que le président dise oui. Donc, voilà.
In fine, c'est-à-dire au terme, c'est le président
qui accepte d'organiser ce référendum, et précisément comme il porte ce texte de la réforme des retraites.
Et qu'il a été élu il y a 8 mois, c'est ça?
Et qu'il est élu il y a 8 mois, et qu'il sait très bien que s'il organise un référendum, ce sera un référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Eh bien, on peut donner la réponse aux téléspectateurs, il n'y aura pas de référendum.
Alors, vous êtes deux spécialistes de la politique, Eric, vous l'êtes aussi. Mais quand, moi, ma réaction, c'est de dire, les Français, ils sont où dans ces débats? Quand est-ce qu'on parle d'eux?
Juste, mais on sort du tunnel le réglementaire de l'Assemblée nationale. Bon, là, il y a ce que nous a très bien expliqué Florian, sur les deux référendaires, parce que c'est une première. Donc, certains disent d'ailleurs du côté de la NUPES que c'est celle qui avait le plus de signatures, qui aurait dû l'emporter, mais finalement, il y a eu un tirage au sort. Et pour essayer de départager, il y a le dépôt d'une motion de rejet. Alors, la motion de rejet, je vous dis ce que c'est très simple, c'est de regarder dans un texte ou une décision qui est prise, s'il y a des éléments ou plusieurs éléments qui sont contraires à la Constitution. Mais comme on n'a pas de recul sur les motions référendaires, en fait,
Tout ça, c'est du cinéma.
Mais attendez,
ça ne sert à rien.
Mais surtout, pardonnez-moi.
Non, c'est de l'agitation politique.
C'est de l'agitation.
Mais pardonnez-moi, ça écarte encore un peu plus, les Français et leur quotidien.
De leurs
gens à qui ils ont confié la possibilité de faire des lois ou de discuter sur le fond des lois. Mais ça, c'est une fracture terrible. Alors, le spectacle-là, il va laisser des traces.
Ça ne va pas arranger l'abstention, on est bien d'accord.
Il va laisser des traces, je pense.
Alors, on va quand même écouter Marine Le Pen, la patronne des députés du Rassemblement National dans l'hémicycle. Elle répond à ses collègues qui ne veulent absolument pas voter la motion référendaire, donc vous avez compris, quasi-référendum du RN. Écoutez-la à l'Assemblée il y a quelques instants.
Si vous aviez gagné le tirage au sort, on ne vous aurait pas entendu aujourd'hui. Voilà. Et ça veut dire qu'en réalité, vous ne respectez pas les règles et vous cherchez à les tordre dans votre intérêt politicien. Nous avons proposé à l'ensemble des groupes qui ont déposé la motion, les 6 groupes, on leur a dit, écoutez, nous, on est prêts à retirer la nôtre si vous acceptez la signature des députés Rassemblement National pour qu'il y ait véritablement une motion transpartisane. Et jusqu'à présent, vous avez refusé. Alors maintenant, halte. Halte à la tartufferie.
Halte à la tartufferie, Louis de Ragnel, Marine Le Pen sait que les Français regardent ce qui se passe à l'Assemblée nationale et elle dit, voilà, on perd du temps et il faut parler d'eux.
Alors, indépendamment de ce qu'on peut penser sur la motion référendaire, de fait, le Rassemblement National en a déposé une, et le RN sait très bien qu'elle n'a aucune chance d'aboutir. Donc, le RN se situe dans la même stratégie que les autres. Okay. Ensuite, effectivement, Marine Le Pen a raison de dire ce qu'elle dit, et ça s'est illustré plusieurs fois à l'Assemblée nationale depuis le début du quinquennat, à plusieurs reprises. Le RN a voté certains textes qui étaient ou certaines motions qui étaient défendues ou proposées par la NUPES, et ça s'est jamais vu dans l'autre sens. Et donc, Marine Le Pen dit, non, mais attendez, arrêtez de faire les marioles. En fait, globalement, on défend la même chose. Nous, on propose d'apposer nos signatures et de se retirer pour le même texte, mais en fait, vous voulez même pas accueillir nos signatures. Et donc, en gros, vous faites vous êtes des mauvais perdants parce que simplement, le tirage au sort a décidé que votre motion sera étudiée après la nôtre.
Après, ce qui est intéressant suite à la prise de parole de Marine Le Pen, c'est qu'on parle des deux motions référendaires qui ont été déposées la semaine dernière. Il y a une nouvelle motion référendaire qui a été déposée aujourd'hui.
C'est celle de Lyon.
C'est pour vous donner un petit peu pourquoi les débats ont été si houleux en ouverture de séance. C'est tout simplement, justement, vu que c'est la motion référendaire, donc l'organisation, grosso modo, d'un référendum qui a été proposé par le Rassemblement national qui devait être étudié aujourd'hui. Et que certains députés de gauche ne souhaitaient pas la voter. Ils ont décidé d'organiser un autre coup politique, c'est-à-dire de mettre de nouveau une motion référendaire sur la table, mais cette fois-ci signée par un plus large nombre de députés, à la fois de gauche, mais également du centre. C'est les fameux députés Liotte, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Et donc, la proposition de l'ensemble de ces députés, et y compris de Marine Le Pen, de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'on dépose cette motion référendaire, les députés du Rassemblement national retirent la leur et ils sont prêts collectivement à voter cette dernière.
Bien. Là, je pense qu'on a tout dit sur la motion référendaire. Ce matin, vous m'avez fait beaucoup rire sur l'antenne de CNews dans la matinale. Vous aviez des rames de papier, vous aviez, allez, combien
7500
feuilles. Et vous avez dit, bah écoutez, voilà, c'est la moitié, le tiers des amendements qui ont été déposés par tous les députés pour évoquer cette réforme. C'est-à-dire que on va perdre du temps, c'est ça? Donc 20 000 amendements déposés, dont 18 000 pour l'ANUPS. On sait que ça n'aura pas le temps d'être. Tous ces amendements n'auront pas le temps d'être étudiés. À quoi jouent les députés? Est-ce qu'il y a un moment où ils parlent du fond de la réforme, c'est-à-dire l'âge de départ de 62 à 64 ans? Est-ce qu'ils auront le temps d'en parler?
Non? Très certainement pas. Pour vous donner un ordre de grandeur, un amendement, ça permet de modifier à la marge un texte. 20 000 amendements déposés, c'est plus que l'ensemble des amendements qui ont été déposés en 2 ans par les sénateurs. C'est plus que l'ensemble des amendements qui ont été déposés l'année dernière par les députés. 20 000, c'est énorme pour un texte de cette ampleur. Et oui, la difficulté, c'est que par exemple, dans le texte qui est proposé par le gouvernement, ce qui crispe la population, les députés, c'est le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. C'est l'article 7. Pour arriver à l'article 7, imaginez le nombre d'amendements qu'il va falloir étudier, qu'il va falloir soumettre au vote des députés avant d'arriver à ce fameux article. Après, la logique des députés de l'opposition, c'est de déposer énormément d'amendements et on peut les retirer. C'est-à-dire qu'on est en quelque sorte maître du jeu. Et c'est comme cela que les députés de gauche, notamment, puisque sur les 20 000 amendements, 18 000 ont été déposés par les députés de gauche, et notamment 13 000 par les députés de la France Insoumise, ils estiment, à présent, après avoir déposé autant d'amendements, être les maîtres du jeu, c'est-à-dire être en capacité de retirer des amendements et potentiellement d'être en surnombre à l'Assemblée nationale et de faire échouer la majorité.
Si je résume bien, on va avoir des députés, notamment de gauche, qui font de l'obstruction, 20 000 amendements, 18 000 pour eux, donc ils savent très bien que le débat ne pourra pas avoir lieu sur le fond. Donc ils veulent dire, ah, ok, on nous a imposé cette réforme brutalement sans qu'on ait le temps de débattre, mais au final, ce sont les Français qui auront pas à qui on va voler ce débat, Louis de Ragnel.
Alors les Français, oui, en fait, la NUPES peut se transformer en idiot utile de la Macronie. Parce qu'en fait, paradoxalement, s'il décide de demander l'examen de tous ces amendements, on sait très bien, vous l'avez très bien résumé, on n'aura pas le temps. Donc en fait, à aucun moment, on parlera réellement du fond du sujet. Et à la fin, ça fait plutôt les affaires du gouvernement. Parce qu'en fait,
on n'est pas.
Mais avec ce paradoxe-là, la NUPES, qui est vent debout contre la réforme, va paradoxalement peut-être Aider le gouvernement. Là où d'autres partis n'ont pas du tout cette stratégie-là. Vous regardez par exemple les Républicains ou le Rassemblement National, au-delà du fond ce que vous pouvez penser sur le sujet, le Rassemblement National a déposé 200 amendements, ce qui est à peu près 200, ce qui est du domaine du raisonnable, et c'est une stratégie qui est assumée par le RN. Eux, ce qu'ils veulent, c'est montrer qu'ils sont crédibles, qu'ils ont vraiment travaillé sur cette question-là, et veulent pas faire de l'obstruction et tout paralyser. Les Républicains, c'est un peu à peu près la même stratégie, même s'ils sont divisés, mais vous voyez effectivement deux stratégies différentes. Et à la fin, en tout cas, si la NUPES demande jusqu'au bout l'examen de tous ces amendements, eh bien, on parlera jamais de rien, jamais du fond.
On parlera pas de l'âge de départ.
Sauf si, voilà, ce que vous avez dit tout à l'heure, la stratégie de retirer brutalement tous les amendements, ce que pourrait faire la NUPES pour dire,
joue, c'est un jeu en fait.
C'est la différence entre la tactique et la stratégie.
Éric Revel, ça vous inspire quoi?
Ce qu'il y a d'incroyable, et je pense à tous les gens qui ont envoyé ces nouveaux députés à l'Assemblée nationale en pensant d'ailleurs peut-être qu'elle était plus représentative du peuple français avec l'entrée massive de députés NUPES ou députés à l'Assemblée nationale. En fait, ils sont en grosjon comme devant, si j'ose dire, parce qu'en réalité, eux, ils pensaient qu'on allait défendre leurs intérêts, et on se retrouve pris dans un théâtre parlementaire où ils ont l'impression d'être non seulement spoliés du débat de fond, mais en plus de leur quotidien. Bon, bah, je pense que les mêmes, là, si les amendements sont pas retirés et si le texte part en navette au Sénat, seront les mêmes groupes parlementaires qui seront les premiers à dénoncer le déni de démocratie en disant il n'y a pas eu de débat de fond, vous vous rendez compte, c'est un scandale à l'Assemblée nationale française, alors qu'ils ont tout. Alors en même temps, il faut reconnaître.
Le temps imparti est quand même très court.
Bien sûr. Non, mais bien sûr. Quand vous le savez, et si vous voulez débattre du fond, vous déposez pas autant d'amendements, parce que sinon, vous savez très bien que le temps est en cours, vous n'aurez pas le temps.
Vous avez raison.
Donc en réalité, c'est un espèce de piège où tout le monde piège et tout le monde est tombé dans le piège du voisin, etc. Les Français, ils retrouvent pas leur petit du tout. Mais moi, où je suis très inquiet, c'est la réaction quand même des gens, encore une fois, devant ce spectacle. Est-ce qu'on s'occupe de ma vie quotidienne? J'ai pas l'impression. Tout le monde s'envoie à la figure que c'est un déni démocratique, etc. Bon, donc ça va aller au Sénat, et puis les mêmes vont hurler en disant mais il n'y a pas eu de débat de fond sur la mesure principale qui est le passage de 62 à 64 ans. Mais on nous prend quand même pour des...
On a les élus qu'on mérite, hein. Enfin, il y a eu des élections.
Ah bah bien sûr, on la respecte.
Après, les taux de participation extrêmement faible.
Tous les Français sont responsables de ce qui se passe aussi à l'Assemblée nationale.
Pour rajouter juste un peu à la complexité, mais je reviens pas dessus, Laurence. J'ai compris qu'on perdait beaucoup de monde en route Mais ce matin, je discutais avec une tête couronnée de la France insoumise qui me disait c'est pas impossible que certains de nos députés votent la motion référendaire
du RN.
Oui, c'est pas aussi clair que ça. Donc, si vous voulez, c'est quand même.
Il faut une majorité de députés pour que
bien
ça passe.
Bien sûr, mais quand même, c'est tout ça est quand même. Enfin, c'est monstrueux. Enfin, surtout dans l'État, dans le contexte social, économique dans lequel on est, les Français, ils ont des problèmes de pouvoir d'achat. Ils ont à tout niveau des. Et en fait, on leur sert un théâtre dont ils ne veulent plus depuis longtemps. Alors, ils veulent des décisions, ils veulent qu'on s'intéresse à leur vie quotidienne.
Ce
qui est terrible et ce qui est cynique, c'est qu'effectivement, c'est de l'agitation politique. Mais derrière cela, pourquoi les députés font-ils cela? Non pas pour défendre les intérêts des Français, ce qu'on pourrait comprendre, bien évidemment, qu'une partie des députés souhaite le recul du gouvernement sur ce texte. Là, ce qu'ils défendent, c'est leur propre intérêt. C'est-à-dire que ils utilisent l'Assemblée nationale, et on en parle maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années même, pour ensuite couper ce qu'on appelle des capsules, pour ensuite les diffuser sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire « Regardez, j'ai pris la parole à l'Assemblée nationale, je vous ai défendu dans l'hémicycle, regardez, j'ai pris la parole, j'ai eu un discours grandiloquent, je vous défends, votez pour moi la prochaine fois », c'est-à-dire c'est une campagne, entre guillemets, de publicité pour tel ou tel groupe, pour ensuite pouvoir gagner des élections dans le futur.
On va écouter un tout petit instant Gabriel Attal là, qui parle, ministre du Budget, on va écouter ce qu'il dit un instant, puis on revient au plateau.
À garantir à chaque Français que pour les années à venir, oui, il pourra compter sur une retraite. N'ayons pas peur de le dire, en matière de retraite, mesdames et messieurs les députés, c'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui. Être à la hauteur des promesses du Conseil national de la résistance, voilà une cause qui mérite que l'on s'y consacre en termes de temps et d'énergie, voilà une cause qui devrait nous unir. Vous l'aurez compris, le gouvernement et sa majorité se sont engagés dans cette bataille avec la ferme volonté d'agir pour que chaque Français puisse, le temps venu, bénéficier sereinement d'une retraite digne et méritée. Cette volonté, nous l'avons chevillée au corps, car nous savons précisément ce pourquoi nous nous sommes engagés. Nous qui siégeons sur les bancs du gouvernement, de la majorité, nous nous sommes engagés car nous croyons au mérite, à l'effort, au travail. Nous nous sommes engagés car nous croyons en ces valeurs et car nous voulons agir pour ces Français qui travaillent le plus souvent sans rien dire et sans rien demander. Ces Français qui travaillent seraient les premières victimes d'un affaiblissement, d'un effritement, voire d'un effondrement de notre système de retraite. Oui, nous croyons au travail. Nous n'avons pas peur de parler de travail, de la valeur travail, de la quantité de travail, de la durée de travail. Et nous savons que le travail n'est pas une abstraction, que derrière le travail, il y a ceux qui le font. Il y a ces hommes et ces femmes qui souvent l'aiment, leur travail, et ces femmes et ces hommes qui parfois en souffrent de leur travail. Nous sommes à leur côté, nous connaissons leur réalité au quotidien.
Voilà donc pour Gabriel Attal. C'est la première fois que j'entends parler des Français, là, tiens. C'est plutôt rassurant. Bon,
oui, non, mais juste,
en un mot, parce qu'on parle.
Il y a une phrase incroyable. C'est cette réforme ou la faillite, c'est cette réforme ou le chaos. Mmh. Mais pardonnez-moi.
C'est nous, le chaos.
Le risque, quand on est excessif, c'est de devenir insignifiant, comme vous le savez. Je vais vous donner deux chiffres. 10 milliards d'euros potentiellement économisés sur cette réforme des retraites.
Potentiellement, 18.
La loi de finances pour 2023 a voté un déficit de 165 milliards d'euros, en augmentation de 7 milliards par rapport aux 158 milliards d'euros de l'année dernière.
Vous donnez le tournis, là.
La faillite, elle est là. La faillite, elle est là, en fait. Hein. Bon, donc, ça ou le chaos ou la faillite...
Alors, nous, c'est pas le chaos, c'est la pub. Et on se retrouve dans un instant dans Punchline. On continue à parler de ce qui se passe à l'Assemblée. Puis, on parlera des Français. Les métiers pénibles, vos situations à vous, on les évoque dans un instant. À tout de suite. 17h30, on reprend notre débat sur la réforme des retraites dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
Des tensions au Parlement cet après-midi. La réforme des retraites est débattue à partir d'aujourd'hui pour 10 jours. Interpellée par l'opposition, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a dû interrompre la séance. Demain, une nouvelle journée de mobilisation contre le projet est attendue sur le territoire. Une journée d'hommage organisée aujourd'hui à Ajaccio, 25 ans après l'assassinat du préfet Claude Erignac. Pour l'occasion, le ministre de l'Intérieur s'est déplacé sur l'île de Beauté. Selon Gérald Darmanin, il est temps, je cite, d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse. Et puis cet enfant et leur mère sont décédés dans un incendie dans l'Aisne. Le drame a eu lieu la nuit dernière dans leur maison de Charly-sur-Marne. Le père de famille a survécu, il a été sauvé par un voisin. Selon le procureur de Soissons, un sèche-linge aurait pris feu au rez-de-chaussée de la maison.
Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Et là, il s'agissait des images d'un appel pour retrouver une jeune fille disparue. On est avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. On accueille Christian Saint-Etienne. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste. Merci d'être avec nous. Jean-Christophe Couvi, policier, secrétaire national Unité SGP. Merci d'être là. Florian Tardif de CNews. Éric Revel, et journaliste. Spécialiste en économie aussi, on peut le dire.
Alors, moins de Christian Saint-Etienne.
On assiste depuis quelques instants au début des débats à l'Assemblée nationale sur la réforme de retraite. C'est un bazar absolu et chacun est en train de s'empailler. J'aimerais quand même qu'on écoute Madame Borne, Elisabeth Borne. Elle a parlé juste avant, elle est en déplacement. Je crois qu'elle maintient le cap sur la réforme des retraites. On va vous demander ce que vous en pensez. Elle dit que c'est une réforme qui est juste, mais qu'elle est prête à faire quelques améliorations et négociations. Écoutez-la.
On est parti sur un projet d'une réforme des retraites qui prévoyait un départ à 65 ans. On est à 64 ans avec une accélération de la réforme qu'avait portée en son temps Marisol Touraine. Donc on écoute, on améliore avec un objectif qui est indispensable, c'est d'assurer l'avenir de notre système de retraite et donc son équilibre à l'horizon 2030.
Voilà pour la Première ministre, Christian Saint-Etienne. Est-ce que c'est ce que disait tout à l'heure Gabriel Attal, c'est où la réforme ou la faillite? Est-ce qu'on en est à ce point-là, ou est-ce que ce n'est pas un tout petit peu exagéré quand même?
C'est une question de plusieurs volets, mais la faillite, si on parle de faillite immédiate, non. Puisque pour notre grand malheur, les marchés financiers nous prêtent. Ce qui fait que tout le monde oublie ça. Si on ne réforme pas plus vite, c'est parce que les marchés financiers nous prêtent. Le jour où on arrêtera de nous prêter, ça sera la solution grecque. que Tsipras avait mis en place, qui était l'inverse de ce que Mélenchon voulait ou souhaite. Et c'était l'inverse de ce que Tsipras avait annoncé.
Plus que la rigueur, c'est vraiment c'est drastique.
Bah, c'est-à-dire que on peut avoir une baisse des retraites de 30% comme en Grèce. Mais donc là, tant que les marchés nous prêtent, ce n'est pas du tout ce qui se profile. C'est néanmoins, la France est le seul grand pays de la zone euro qui a un déficit, un double déficit d'abord, c'est-à-dire un déficit des finances publiques et un déficit de la balance commerciale. Et puis, c'est le seul grand pays de la zone euro qui ne réduit pas son déficit public. Il reste au même niveau en 2023 qu'en 2022. Nous allons avoir en 2023 un déficit supérieur à celui de l'Italie, qui par ailleurs, on apprend toujours de haut, mais on a failli perdre le match hier en plus. Mais néanmoins, elle a un énorme excédent extérieur, donc il faut arrêter de prendre l'Italie de haut.
Oh, croyez-moi, elle ne prend pas de haut, les Italiens.
Et donc...
Avec le nom que je porte.
Et donc, oui, la situation est grave, mais... pas immédiate, mais en fait, elle est, si vous voulez...
Donc c'est exagéré de dire c'est nous, la famille.
Non, c'est exagéré au niveau des systèmes de retraite en conjoncturel, mais la situation structurelle est beaucoup plus grave que ce que tout le monde imagine, dans la mesure où nous sommes le grand pays développé le plus désindustrialisé de la planète. Or, si vous n'avez plus d'industrie, vous n'avez pas de capacité d'exportation.
Effectivement. Et ça, c'est extrêmement grave. On verra un exemple.
Il y a un autre point que je peux évoquer.
À Saint-Omer, sur comment on fait des économies, en fermant les usines. Comme ça, c'est très simple. Ça fait des économies d'électricité.
Un autre point qu'il faut avoir toujours à l'esprit pour comprendre la nécessité de faire la réforme des retraites. En 1960, il y avait 4 cotisants pour un retraité. En 2019, 1,7. En 2030, 1,5. Alors, les gens ne voient pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'un actif porte un jeune sur ses épaules et une demi-personne âgée sur les épaules. Donc, en plus de lui-même, il porte 2 personnes et demie. Voilà. Donc, quand on dit, par exemple, la solution, c'est de... Il y a des gens qui proposent J'entendais ce matin sur CNews un carreleur qui disait « J'aimerais bien la retraite à 55 ans ». Donc, bien sûr, pourquoi pas 52, d'ailleurs. Mais dans ce cas-là, les actifs qui resteront porteront toujours un jeune.
Bien sûr.
Cette fois, ça ne sera pas un demi-retraité, mais un retraité entier, c'est-à-dire qu'ils porteront, eux compris, 3 personnes. Voilà, ces chiffres, on les a plus à l'esprit et c'est pourtant ça qui détermine l'équilibre des régimes en répartition.
On va écouter quelques-uns des intervenants que vous avez entendus ce matin sur CNews. On a passé la journée à Saint-Omer, on a plusieurs témoignages importants, puis je vous passerai ensuite la parole, M. Couvi. Mais écoutez ce que disent les artisans, notamment, qui ont des métiers difficiles, pénibles, de cette réforme et de ce départ de 2 ans supplémentaires à la retraite.
Paul Lefebvre a 34 ans. Artisan carreleur, il se rend aujourd'hui chez un particulier.
Bah là, il y a 25 sacs dans le camion, donc il y a 750 kilos à peu près.
Ces 750 kilos, Paul va devoir les porter à la force de ses bras pour que son chantier puisse avancer. Entre ces différents chantiers, Paul travaille entre 55 et 60 heures par semaine, 6 jours sur 7. Dans son secteur, son métier est considéré comme pénible.
Toujours à genoux, toujours à porter, monter les escaliers... Moi, je me baisse et je me lève 200-300 fois par jour. Hein.
Avec un début d'activité professionnelle à 16 ans, il fait partie des actifs à la carrière dite très longue. Avec la nouvelle réforme, il pourra partir à la retraite dès 60 ans, mais ne pense pas tenir aussi longtemps.
Bah, déjà, dans le bâtiment, avec des métiers compliqués, si on bosse qu'à 55 ans, c'est bien. Hein.
Certains envisagent même des reconversions. À l'image de Julien Havard, il est couvreur depuis ses 16 ans et souffre de douleurs au niveau du dos.
Peut-être arrêter de faire de la couverture, peut-être passer sur de la menuiserie, peut-être on reste dans un atelier, on fabrique à fabriquer des choses, mais plus monter forcément sur les toits, c'est sûr. Ouais.
Avec la nouvelle réforme, les métiers pénibles devraient bénéficier d'un congé de reconversion permettant de changer de métier plus facilement.
Voilà pour ce reportage de Solène Boulan et Thibault Marcheteau. Ça, ce sont des métiers pénibles, évidemment, Jean-Castel Soubi. Vous aussi, policier, ce sont des métiers pénibles. À quel âge vous partez avec la réforme, là?
Alors là, avec la réforme, ça sera 59 ans. Mais attention, 59 ans, avec quelle somme? C'est ça, en fait. Parce qu'effectivement, je vous suis, hein, mais donc on va supporter la réforme 2 ans de plus. Donc c'est surtout aussi le taux de trimestre de cotisation qui va être très important. Et il y aura un âge légal, mais l'âge légal, ce n'est pas l'âge réel. Et on sait très bien que l'âge réel est toujours supérieur à l'âge légal. Donc en fait, on travaillera un peu. Après, par rapport à ce que vous disiez, je suis d'accord, mais je suis pas économiste, mais jusque dans les années 60, effectivement, il y avait beaucoup plus de personnes qui travaillaient
qu'aujourd'hui. Il y avait à peu près 30 millions, je crois, aux années 70, qui travaillaient. Aujourd'hui, on a 23 millions, à peu près.
Ah non, c'est l'inverse.
C'est l'inverse.
Aujourd'hui, la population active est de 30 millions, dont 3 millions de chômeurs. Donc, il y a 27 millions de gens au boulot. Et c'est au contraire le taux d'activité le plus élevé qu'on ait eu depuis 30 ans. C'est
ça. Donc, en fait, on est deux fois plus riche. On est deux fois plus riche en PIB que dans les années 60-70. Donc, ça veut dire qu'on est plus productif. Et quand on est plus productif, donc ça veut dire que 1,4 travailleurs qui supportent effectivement les retraités, ça veut dire donc qu'on est capable de les supporter. Après, juste quand moi je participe à ma retraite, donc tous les mois, je donne une partie de ma paye pour ma retraite, mais en fait c'est moi qui la finance, c'est pas l'État. L'État, c'est mon employeur, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une partie qui devait normalement revenir à la personne qui travaille, qui met ça sur le pot commun, et donc c'est pour ça que je peux avoir plus tard une retraite.
Enfin, le système des retraites, et donc, la capitalisation, ce n'est que 80% des pensions qui sont ensuite versées. Donc non, l'État est aujourd'hui d'ores et déjà obligé de compenser via la caisse d'assurance maladie, via un certain nombre de systèmes. Le système en soi est d'ores et déjà déficitaire.
La France est en répartition. Le système est à 97-98% en répartition. C'est-à-dire quand vous cotisez aujourd'hui, ça va pas dans une caisse, ça part trois jours après, on vous le pique sur votre salaire le 30, et le 2, il part au retraité sous forme de pension.
C'est ça.
De telle sorte qu'en fait, c'est un système intergénérationnel, la génération actuelle paye pour ceux qui étaient là avant, et elle espère que ceux qui seront après paieront. Voilà. Et donc, la capitalisation, à l'inverse, c'est chaque année, je mets dans un magot, et à la fin de ma vie active, on voit le montant qui a été accumulé, et on verse une pension à partir de ce magot. Mais la France est un des pays dans lequel la capitalisation est la plus faible. Alors, juste un point, puisque vous me donnez là, gentiment la parole. Contrairement à ce qu'on pense, aux États-Unis aussi, la retraite de base est en répartition. 100% des Américains vivent avec une retraite en répartition. Et la capitalisation, c'est un complément de retraite qui est versé à peu près à 40% de la population.
Voilà.
Donc en France,
plus utilisé qu'en France.
Si on allait vers de la capi, ça ne pourrait être qu'un complément. Parce
c'est son petit nom, la capi.
La capitalisation, ça fait peur, mais on imagine toujours. On imagine toujours qu'on peut passer la répartition à la capitalisation. D'accord. Ça n'existe nulle part.
Ça n'existe pas.
En gros, le système optimum, c'est deux tiers répartition, un tiers de capi. Mais le fait que la France n'ait pas de capitalisation fait que dans les 30 dernières années, on a loupé toute la période où il y avait des taux d'intérêt réels très élevés. Et donc, les Français ont des pensions qui sont plus faibles que si on avait eu une partie de capitalisation.
Très intéressant. Jean-Christophe Covid.
Le problème de la capitalisation aussi, demandé aux Américains en 2008, d'ailleurs, quand il y a eu la crise des subprimes, tout s'est cassé la figure parce que la capitalisation, et si vous n'allez pas me contredire, c'est qu'en fait, vous donnez de l'argent, vous achetez des actions, des obligations qui vous rapportent des intérêts, etc. Sauf que quand vous voulez profiter de votre retraite, on est obligé de vendre ses actions et ses obligations pour vous verser une rente. Alors, c'est ça. Mais sauf que si c'est patatras et que tout s'écroule et que l'économie s'écroule. Donc en fait, les actions qu'on va vendre, il faut déjà qu'on trouve des acheteurs et les acheteurs vont les acheter très très basse et donc du coup ma retraite sera très basse aussi.
Alors ce que vous dites est exact, si ce n'est que c'est pris en compte. C'est pour ça que je disais à l'instant, si vous m'avez bien écouté, j'ai dit dans aucun pays, comme je vous écoute, dans aucun pays, c'est souhaitable d'avoir 100% de capi, exactement pour la raison que vous venez de dire, c'est trop dangereux. Ce qui est encore pire, c'est ce qu'on voyait aux États-Unis, c'est les gens qui étaient en capi de la boîte dans laquelle ils étaient. Alors, quand la boîte faisait faillite, ils perdaient tout, leur boulot et la capi, normalement, c'est interdit en France. Donc ça, c'est un point clé. C'est pour ça que j'ai dit, c'est inconcevable d'être totalement en capi. L'optimum, c'est deux tiers en répartition parce que ça assure une base. Et un tiers en capi au max. Je pense qu'en France, si on allait vers une part de capitalisation, ça serait même un septième au maximum de capitalisation, parce qu'il faut constituer les fonds de pension prend 20 ans.
Mais ce qui est très intéressant, puisque vous parlez de capitalisation, puis j'arrête après, c'est qu'on assiste dans le pays à une explosion des PER, des plans d'épargne retraite. Voilà. On est passé de 1 million à 2 millions.
Alors pour ceux qui ont la chance de pouvoir avoir une entreprise.
Vous pouvez mettre 100 euros.
Même dans les petites boîtes
Si vous avez 100 euros à mettre, vous
avez des PER individuels aussi.
C'est un PER extérieur. Mais ce que je veux dire, c'est que, évidemment, chacun selon ses moyens, mais par définition, un cas de sup, il aurait une retraite plus élevée que quelqu'un qui paye au SMIC. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Français, en fait, à l'insu de leur plein gré ou n'écoutant pas forcément les orientations politiques, font le choix de plus en plus, visiblement, d'ouvrir des PER pour assurer leur retraite. Et d'une certaine manière, ça va dans la direction que vous citiez.
Donc ils font plus confiance à l'État.
Ah non, ça va dans la direction que vous disiez, c'est-à-dire que, à compter de la répartition, ils se disent, je vais faire un peu de capitalisation. Et d'ailleurs, Christian Saint-Etienne le sait, mais le fonds de réserve des retraites qui a été créé par Lionel Jospin, vous savez comment il est géré? Il est géré comme un fonds d'investissement. C'est-à-dire que il investit sur de l'obligation et sur de l'action, justement.
Et la préfonds aussi.
Et la préfonds aussi.
C'est un complément en capital. Alors juste, je voulais compléter, parce que c'est rarement dit aux antennes, ça, c'est que ce que vous disiez est totalement exact. Parce que si on accumule des actions pendant 40 ans, on part à la retraite, on vend ce jour-là, si c'est un jour de crise, on est mort. Donc comment c'est géré? Eh bien, les gens qui gèrent vos fonds de pension, et encore une fois, je suis contre le fait d'avoir tout en capitalisation, mais ceux qui gèrent, 15 ans avant, ils commencent à passer d'actions en obligations. Et à mesure que vous vous approchez de la date, c'est quasiment tout en obligations, pour éviter le risque que vous évoquiez. Et si en plus la CAPI n'est qu'un complément de la répartition, les risques sont très faibles.
J'aime bien votre petit acronyme, là. La CAPI, ça me plaît bien. Louis, un tout petit mot.
Non, un mot, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est que si on en est arrivé là, c'est d'abord et avant tout parce qu'il n'y a plus assez de cotisants par retraité.
Oui, c'est la base du problème.
Et donc, la base, c'est une question, en fait, de natalité, de démographie. Et j'ose espérer que dans le débat public, la solution ne va pas être, du coup, il faut augmenter l'immigration. Parce que là, on rentre dans un nouveau, ça ouvre un autre sujet politique. La deuxième chose que j'observe, c'est tous les débats autour de la pénibilité. Bien sûr qu'il y a des métiers qui sont physiquement très durs.
On en a vu un exemple, hein.
Le vôtre. Il y a des métiers physiques, mais je trouve qu'il y a une sorte de dérive, c'est-à-dire que objectivement, je mets bien sûr de côté les métiers physiques, mais citez-moi un métier qui n'est pas pénible. Il n'y a pas de métier qui...
Mais après, physiquement, il y a des métiers qui sont plus pénibles.
Oui, mais je viens de les mettre de côté.
Vous avez passé votre vie dans des bureaux. Vous n'avez jamais transporté un sac de ciment, Louis.
Métier... Mais j'ai bien mis de côté les métiers physiques. Non, mais les métiers physiques sont, par définition, je comprends très bien qu'à 55, 56 ans, même peut-être avant, on ne puisse plus porter de charge de l'eau. Je suis entièrement d'accord. Mais je trouve que de plus en plus, dans le débat public, tout le monde a dit, moi aussi, c'est pénible. Moi, je suis assis sur une chaise là pendant 2 heures, donc je vais avoir mal au dos. Vous levez à 5 heures du matin tous les matins. Non mais en soi c'est pénible. Et en fait je trouve que du coup je pousse le trait un peu à l'extrême. Il y a aussi une attente de la société de trouver les mêmes satisfactions pour un loisir dans le travail. C'est-à-dire que par définition le travail c'est fatigant. Le travail il faut se lever, il y a des rendez-vous, il y a des contraintes. Et ça c'est, je trouve pas que ça puisse être considéré comme de l'usure.
Démographique, vous avez raison, il est essentiel. Mais pardonnez-moi, il y a une telle inertie entre le moment où vous faites des enfants et le moment où ils travaillent, que de toute façon, là, on a des besoins à court terme qui sont
structurels. Et n'oubliez jamais... À long terme, le problème est devant nous.
Bien sûr.
Cette réforme-là,
ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de politique de natalité suffisante en France. Ça, c'est un fait, vous avez raison.
Et on squeeze les mères de famille sur la réforme.
Et la démographie peut venir au secours, mais dans le temps, c'est trop décalé. C'est-à-dire que les générations qui naîtraient aujourd'hui avant qu'elles ne travaillent, de toute façon, si on ne fait rien, le système aura basculé. Moi, le chiffre m'a quand même marqué. L'INSEE, il y a un mois, montrait que le taux de natalité en France était au plus bas depuis 1946, si ma mémoire est bonne.
Même moins bas que les autres Européens.
Il n'y a plus d'aide pour les enfants. Les trimestres de cotisation que les femmes avaient pour chaque enfant, squeak. Alors, ils disparaissent avec la réforme. Et personne n'en parle.
On en a parlé chez vous, Laurence.
Oui, heureusement que je suis là. Mais sinon, les hommes politiques, les mères de famille, ça ne les intéresse pas.
Il se trouve que ça fait très longtemps que je travaille sur le sujet des retraites. J'ai essayé de comprendre d'abord les poids respectifs, répartition, capitalisation. Il faut arrêter de faire une guerre de religion là-dessus. Donc, c'est pour ça que je le dis. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, c'est 2/3 répartition, c'est la base pour tout le monde. Il ne doit pas y avoir d'exception. Et la CAPI, c'est un complément. Et le deuxième point qui est très important, c'est de prendre en compte la durée passée à la retraite. En France, le temps passé à la retraite est 5 ans plus long que dans les autres pays. Alors, vous avez raison tout à l'heure.
Je trouve que c'est vertueux.
Oui, mais très bien. Si ce n'est qu'il faut que quelqu'un paye. Et vous évoquiez la productivité qui a augmenté. Mais le problème, c'est que ce qui compte, c'est la productivité par rapport aux autres. Si les autres ont augmenté plus que nous, En fait, vous appauvrissez. Et très peu de gens savent que le niveau de vie français a baissé 10% par rapport au niveau de vie allemand dans les 12 dernières années. Et les Allemands travaillent beaucoup plus que nous. Donc, il y a une vraie interrogation qu'il faut avoir sur le temps passé au travail.
Ça, c'est encore autre chose.
Et sur la durée passée à la retraite, il y a une profonde inégalité. Et cela, personne n'en parle. Les Français entre eux ne vont pas passer autant de temps à la retraite les uns par rapport aux autres. Lorsqu'on le regarde, les régimes spéciaux, par exemple, 27 ans passent à la retraite pour quelqu'un qui a travaillé à la SNCF. Un peu plus de 26 ans pour quelqu'un qui a travaillé à la RATP. Un peu plus de 26 ans pour quelqu'un qui a travaillé dans l'industrie énergétique, l'électricité, et moins de 20 ans pour le reste de la population. Est-ce que la réforme, elle n'est pas là? C'est-à-dire remettre le système globalement à plat et prendre peut-être plus en compte la pénibilité dans certaines professions.
Alors justement, moi je défends pas du tout cette réforme parce que je considère que le gouvernement a planté cette réforme en la faisant pas en 2019. Je pense que Macron a une grande responsabilité parce qu'il a voulu faire une réforme qui réglerait tout avec le système à points, ce qu'il avait à l'esprit en réalité. Ce que m'ont confirmé les hauts fonctionnaires de Bercy par des mails qu'ils ont signés, c'est que ce qu'ils anticipaient, c'est que sur les 30 prochaines années, la valeur du point allait baisser chaque année, de telle sorte que les gens, excusez-moi, se feraient baiser sur la durée et qu'ils n'avaient pas besoin de changer l'âge de départ parce que ça se verrait pas. Moi, j'ai toujours dit, je préfère une réforme en annuité parce que tout le monde comprend ce qu'on fait. Je trouve que c'est dégueulasse de faire une réforme par point qui cache ce qu'on veut faire.
La réalité. Et alors?
Voilà. Et donc, la valeur du point varie sans arrêt. Et donc, sur ce plan, je termine.
Allez-y.
L'optimum, c'est effectivement 44 ans de cotise, que ça nous plaise ou non. Mais je propose depuis longtemps trois modifications. D'abord, sur la pénibilité, il y a à peu près un septième des gens qui ont un niveau de pénibilité physique ou nerveuse qui est important. Je propose que ces gens-là puissent avoir une réduction. Alors, c'est très important parce que c'est 64 ans d'âge de départ et 44 ans de durée de cotise. Je propose qu'on fasse 2 ans sur les deux, ce qui est énorme. C'est-à-dire, on demande plus que 42 ans. Pour 62 ans. Et ceux qui ont... Alors, il y a quand même un point positif dans la réforme qui est proposée. Ceux qui bossent depuis avant 21 ans, ils pourront même partir à 60. Donc, il y a quand même, sur ce plan-là, une avancée importante.
Quand même 5 trimestres pour cotiser.
5 trimestres avant.
Voilà.
Hein.
Donc, c'est le premier aménagement, c'est sur la durée du travail. Moi, je pense qu'il faut garder l'aménagement sur les enfants. Et je pense qu'il faut le plafonner. Et plutôt que d'avoir un truc indéfini, moi, je suis favorable à un système 6 mois par enfant jusqu'à 2 ans. Bon, si vous avez 6 ou 7 enfants, c'est votre choix, mais de toute façon, c'est plafonné à 2 ans.
Ouais,
et l'idée, c'est que quand même, il ne faut pas que le système saute, c'est de plafonner les 2 avantages à 3 ans. C'est-à-dire, si vous avez les 2 ans de pénibilité et les 2 ans d'enfant, vous êtes quand même plafonné à 3 ans. Mais là aussi, sur la durée et sur l'âge.
Très intéressant.
C'est 61 ans et 41 ans, c'est énorme. Et le dernier point qui me semble clé, et ça, je voudrais que les syndicats se battent pour ça. J'ai toujours dit, j'ai toujours observé, comme tout le monde peut le faire, que l'essentiel des fonds de formation sont dépensés sur les jeunes diplômés, ce qui est complètement malade. Donc j'ai toujours dit, il faudrait qu'on ait dans la loi quelque chose comme 40% des formations sur les plus de 40 ans, pour que ce soit mnémotechnique. Évidemment. Et qu'on ne peut pas arrêter de former les gens à 35 balais pour leur dire à 52 ans, t'es out. Non, il faut, si on pousse la retraite à 64 ans, il faut former les gens jusqu'à 62, 63. Ouais. Donc,
des propositions.
J'appelle à une. Ouais. Qu'on fasse la loi, elle n'est pas si mauvaise que ça, elle est tardive. Enfin, on fait une réforme en annuité plutôt qu'en points. Mais je pense que ce qu'il faudrait se battre, c'est pour une négociation interprofessionnelle juste après sur les questions de formation, notamment le 40% de formation sur les plus de 40 ans. Et puis, je pense aussi
un tout petit mot de conclusion, Monsieur Covy, peut-être sur les propositions.
On fait haro sur les régimes spéciaux, juste pour enfin, je pense que vous le savez, mais les régimes spéciaux, ils sont nés sous Colbert. Donc c'était le premier geste pour créer une retraite. Donc c'était la royale, c'était la marine. Et petit à petit, il a fallu attirer aussi des gens pour occuper des métiers particuliers qu'on pouvait rappeler H24, etc. Donc pour attirer, il fallait des... il faut remettre à plat peut-être des choses, mais il ne faut pas tirer à boulet rouge sur les régimes spéciaux.
Absolument, il faut être très vigilant. En tout cas, merci beaucoup d'être venu exposer vos thèses. Revenez quand vous voulez. Libre antenne pour vous. Vous avez des propositions à faire au gouvernement. Et évidemment, on va continuer à parler de cette réforme des retraites et de la zizanie à l'Assemblée nationale, que ça a bien commencé. ça a commencé très fort. Vous en verrez quelques extraits dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La zizanie à l'Assemblée nationale lors du coup d'envoi des débats sur la réforme des retraites. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation dans la rue et dans les transports en commun, l'hostilité à la réforme ne cesse de croître dans l'opinion publique, d'autant que les blocages sont plutôt bien acceptés par la population. Elisabeth Borne a-t-elle lâché assez de lest pour que les députés républicains votent sa réforme ? Ça passe ou ça casse, souffle-t-on dans les couloirs du gouvernement. On entendra vos réactions sur les carrières longues. Les travailleurs qui ont commencé entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans, au lieu de 64 ans, a annoncé la Première ministre. Est-ce suffisant ? À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours ? On en débat dans un instant dans Punchline, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est pile 18h sur Europe 1 et sur CNews. Forte tension à l'Assemblée nationale cet après-midi. Les députés ont commencé donc les débats sur la réforme des retraites. Un texte contesté par l'opposition avec un nombre record d'amendements déposés notamment par la NUPES. C'est donc parti pour 10 jours de bataille parlementaire. Et puis troisième journée de mobilisation demain contre cette fameuse réforme. Selon nos informations et celles d'Europe 1, près d'1 million de personnes sont attendues dans toute la France, entre 40 et 70 000 dans la capitale. La SNCF et la RATP viennent d'annoncer un trafic très perturbé sur les réseaux. Pas d'appel à la grève d'ailleurs ce samedi à la SNCF. Les syndicats demandent seulement aux cheminots de participer aux manifestations. Sur tout le territoire, ils disent vouloir ne pas pénaliser les voyageurs alors que les vacances d'hiver ont débuté. Une journée d'hommage organisée aujourd'hui à Ajaccio, 25 ans après l'assassinat du préfet Claude Erignac. Pour l'occasion, le ministre de l'Intérieur s'est déplacé sur l'île de Beauté. Selon Gérald Darmanin, il est temps, je cite, d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse. Le procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris s'est ouvert cet après-midi. Un drame qui a fait 10 morts le 5 février 2019. La suspecte, atteinte d'importants troubles psychiatriques, est jugée devant la cour d'assises de Paris. Le procès doit durer 3 semaines. Enfin, plus de 2300 morts dans le sud de la Turquie et en Syrie, un bilan qui reste provisoire. Ce matin, un séisme de magnitude 7,8 a touché les deux pays. Un autre tremblement de terre, une réplique, a frappé la Turquie en fin de matinée. À l'image de la France, dans de nombreux pays, il y a eu des secousses. Des pays comme la France proposent leur soutien pour venir en aide aux populations touché. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Il est 18h01, passé de 30 secondes. On est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille deux syndicalistes. Frédéric Souillot, bonsoir. Secrétaire général de Force Ouvrière. Merci beaucoup d'être avec nous. On
merci
va parler, bien sûr,
merci de l'invitation,
de cette réforme des retraites que vous combattez, comme les autres syndicats.
Oui.
Et on est avec Fabien Villieu, représentant Sudrail. Bonsoir à vous. Merci
bonsoir
d'être là. Éric Revel, journaliste.
Bonsoir, Laurence.
Et Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1.
Bonsoir,
c'était
Laurence
le bazar cet après-midi à l'Assemblée, monsieur Souillot, monsieur Villieu. On va voir ce que vous en pensez dans un instant. C'est parti dans tous les sens. On va écouter peut-être Yael Braun-Pivet, qui a eu du mal à se faire entendre, qui a même dû préciser, c'est pas la manif ici, c'est l'Assemblée nationale. Écoutez ça, on part à l'Assemblée, puis vous me dites ce que vous en pensez.
Monsieur le ministre, est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle ? Oui ? Vous ne croyez pas que nos compatriotes méritent mieux que ça ?
Des engagements présidentiels clairs.
Mes chers collègues, clairs. On n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
Voilà pour l'ambiance cet après-midi à l'Assemblée nationale. Yoann Uzaï, vous êtes sur place. Que s'est-il passé et qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Est-ce qu'on a enfin, on parle du texte ou pas ?
Alors, on ne parle pas encore du texte, Laurence, mais ça, c'était prévu pour une raison qui est simple. C'est-à-dire qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, les députés vont d'abord examiner une motion de rejet préalable et ensuite une motion référendaire pour rejeter le texte, en quelque sorte, la motion de rejet préalable avant même son examen. C'est un peu technique, mais on entrera vraiment dans le vif des débats à partir de demain. Alors, le calme est revenu ici à l'Assemblée, mais on l'a entendu dans l'extrait que vous venez de diffuser. C'est vrai que les débats ont commencé il y a 2 heures tout juste. Je dis les débats, mais je devrais c'est-à-dire les hostilités en réalité. On s'attendait à des discussions très vives dans l'hémicycle. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne s'était pas trompé. Quelques minutes seulement après l'ouverture de la séance, eh bien Yaël Braun-Pivet, qui préside l'Assemblée nationale, a été contrainte de suspendre la séance. Pourquoi ? Parce que le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui défend le texte ici à l'Assemblée nationale, a été interrompu par les députés de la NUPES qui ont fait un énorme chahut dans l'hémicycle. Voilà qui promet donc, effectivement, vous l'avez dit, 10 jours très animés ici à l'Assemblée nationale.
Merci Yoann Uzaï et Olivier Gangloff à l'Assemblée nationale. Monsieur Souillot, vous êtes secrétaire général de Force ouvrière. Quand vous voyez le bazar à l'Assemblée, vous avez l'impression qu'on parle des problèmes des Français ? On parle de la réforme des retraites ou pas ?
Alors, s'il y a bazar à l'Assemblée nationale, moi je ne fais pas de politique, je fais juste de la politique syndicale. Si l'exécutif avait entendu la totalité des organisations syndicales, tout le temps des concertations, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation, eh bien aujourd'hui, il parlerait d'autre chose à l'Assemblée nationale. Dans la rue, j'invite la présidente de l'Assemblée à venir dans les manifestations. C'est pas le chantier dans les manifestations, on chante même. Mais on est mobilisé et déterminé, donc pour nous, il n'y a pas de sujet. C'est si on ne veut pas de chantier D'accord. à l'Assemblée nationale, pas de recul de l'âge D'accord. de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation.
Mais quand on perd une après-midi à savoir si on va voter ou non une motion référendaire, on ne parle pas des problèmes des Français, on est bien d'accord. On ne parle pas de la pénibilité, on ne parle pas des carrières longues, on ne parle pas de l'âge de départ décalé à 64 ans, M. Souillot.
Qui parle du problème des Français ? En tout cas, pas ceux qui proposent cette réforme. Puisque autrement, vous seriez les premiers à dire qu'on n'arrive pas à mobiliser et ils seraient les premiers à constater que les organisations syndicales ne mobilisent pas. Aujourd'hui, s'il y a chantier à l'Assemblée nationale, ce n'est pas le problème des organisations syndicales. Non, la responsabilité, c'est celle de l'exécutif et du gouvernement.
Non, c'est évidemment que ce n'est pas la responsabilité des syndicats. Ma question, et je la pose aussi à Fabien Villedieu, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est à côté de la plaque et qu'au fond, les Français se disent on ne parle pas de nos problèmes à l'Assemblée. On perd du temps sur des débats strictement politiques.
Ah, faut bien que ça remonte. Hein. Voilà.
La colère
La colère, faut bien qu'elle remonte parce qu'on n'écoute pas les sondages, on n'écoute pas la rue, on n'écoute personne. Bah, peut-être que ça va remonter. Après... pas sûr que sortira grandi de mais ce qu'il faut quand même voir c'est que il y a pas de les Français enfin j'ai l'impression en tout cas c'est mon interprétation ils veulent pas un aménagement de la loi non ils veulent un retrait de la loi parce qu'aujourd'hui on nous explique qu'on est prêt à discuter de tout sauf de la problématique numéro 1 c'est-à-dire le décalage de 62 à 64 ans c'est-à-dire qu'on discute de tout sauf de ça. Bah, fatalement, et à l'Assemblée, ils discuteront de ça. S'il y a des amendements qui sont faits en faveur de tel ou tel...
Il y a 20 000 amendements, en aucun cas, il y aura le temps de parler de ça,
mais pas forcément de l'opposition, mais en tout cas de la majorité, parce que j'ai cru qu'ils arrivent, pour l'instant, en tout cas à l'instant T, de ne pas avoir de majorité entre eux, voilà. Y compris, ils sont obligés de négocier plus avec
les républicains
qu'avec
sur les carrières longues, on verra d'ailleurs
sur les relations
ce
syndicales, c'est un peu étrange d'ailleurs, parce qu'on voilà, on négocie avec les républicains, voilà, c'est comme ça.
Oui, mais
du coup, en tout cas, sur la raison numéro un, ça recule pas, donc bon, il y a un peu de zizanie.
Quand Monsieur Souillot, on entend la première ministre qui dit voilà, c'est notre réforme et elle est juste et de toute façon, c'est le seul moyen pour assurer la pérennité du système des retraites. Vous dites quoi?
Je dis que c'est pas le seul moyen. On a fait tout un tas de propositions pendant 4 mois. Si on augmente de 10 points le taux d'emploi des 55-64 ans, on a le plus bas taux de l'OCDE. Hein. C'est pas moi qui fais la norme, c'est l'OCDE. Et ben, ça fait 50 milliards en 2032. Ben, aujourd'hui, on n'est pas entendu. On nous parle d'un index senior qui sera par décret. Ça veut dire signer un chèque en blanc. Mais aujourd'hui, la totalité des organisations syndicales et 93% des salariés actifs sont contre un recul de l'âge de départ et un allongement de la durée de cotisation. Maintenant, le reste, si il faut qu'il y ait discussion, mais c'est recul de l'âge de départ, d'abord, retrait du projet de réforme.
Oui, mais là, les députés, évidemment, n'auront pas le temps d'aborder ce point-là, étant donné qu'ils ont un temps imparti pour étudier le texte, ils partiront ensuite automatiquement au Sénat, puis qu'il reviendra Louis de Ragnel. En fait, on a l'impression que le débat n'aura pas lieu, et c'est extrêmement frustrant.
Alors oui...
Le débat de fond, je veux dire, sur les 64
aussi,
ans.
Si on veut vraiment décrire une situation objective... c'est le gouvernement qui a décidé de passer par ce qu'on appelle un véhicule législatif, c'est-à-dire utiliser un article de la Constitution qui prévoit un débat qui est coincé, qui dure 11 jours au total, 9 jours pleins et 9 jours au-delà desquels, en fait, ça ne sert plus à rien de voter puisque le texte part au Sénat. Donc c'est vrai que dans la technique, le gouvernement a participé un peu à durcir le ton. Mais de l'autre côté, le paradoxe quand même de l'histoire, c'est que la NUPES va devenir l'idiot utile du macronisme, c'est-à-dire va être l'allié objectif d'Emmanuel Macron, puisque en déposant autant d'amendements, vous l'avez dit, près de 18 000, eh bien en fait ça empêche tout débat sur les questions de fond. Et je voulais simplement vous poser la question à tous les deux, parce que vous sembliez dire bon bah écoutez, si il y a eu du chahut à l'Assemblée nationale, c'est un peu normal parce que le gouvernement est obstiné. Mais en fait, je voulais justement en venir à la question. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors que on débat à l'Assemblée nationale de questions du travail, d'allongement de l'âge de départ à la retraite, ça justifie ce type de scène?
Alors, M. Souillot, peut-être, ben, ou M. Villedieu?
Ojo. Alors, il n'y a rien qui justifie quoi que ce soit. C'est le gouvernement qui a décidé de mettre son projet de réforme et de le passer comme ça avec son cavalier législatif.
Il n'y a rien d'illégal.
Ah non, il n'y a rien d'illégal, mais pour autant, vouloir gouverner contre tout le monde, une majorité de Français, la totalité des organisations syndicales, ben vous attendiez à quoi d'autre? Franchement, ça n'est pas possible. On lui a dit, redit et re-redit. Et si demain, il y a encore autant de monde, nous avons déjà été des millions dans la rue sur deux manifestations. Et il n'y a pas de grève par procuration. Même dans des petites entreprises, eh bien, les gens font grève. Du privé. Donc, moi, je vous ai dit, je ne fais pas de politique. Je fais de la politique syndicale. Eh bien...
Mais oui, si mais la frontière est tenue.
Ah non, bah elle n'est si, pas là, tenue.
Cette réforme, elle est éminemment politique. Et de fait, vous avancez des arguments politiques.
Okay.
Non, je n'avance pas d'arguments politiques. L'article L1 du Code du travail, la loi Larcher, qu'est-ce qu'il dit? Information, concertation, négociation. On a eu l'information, la concertation, négociation, c'est après.
Ouais. Alors, M. Villedieu, vous voulez réagir à ça?
Ouais. Il y a eu des discussions à l'Assemblée nationale hein, sur le travail, hein. Beaucoup, hein. Enfin, depuis même avant 2017. Il n'y a pas eu un tel bordel. Pourquoi? Parce que je pense que Macron et son gouvernement ne se rend pas compte de l'attachement viscéral. Parce que moi, j'ai tendance à dire, et les gens ne le savent pas, la retraite, c'est 50% de la protection sociale en France. C'est pas un élément, c'est l'élément central de la protection sociale en France. Les Français sont très attachés, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais en tout cas, ils sont très attachés à la protection sociale en France. Donc quand vous attaquez à la retraite, ils ont le sentiment qu'on attaque le modèle social. Voilà. C'est le carburant de la mobilisation, de l'énergie, des gens, de la France des périphéries qui viennent. Et ben ça, c'est obligé que ça remonte. Et ça, c'est pas discussion sur le travail, sur le chômage, où ça se passe pas forcément bien, mais ça passe plus ou moins. Là, ça remonte et c'est obligé. Et j'aurais tendance à dire que là, enfin, Macron est en train de mettre la zizanie dans le pays, quoi. Il met la zizanie partout dans le pays.
Allez, on fait une petite pause. On vous repasse la parole dans un instant, M. Villedieu de Sudrail et M. Souillot de Force Ouvrière. On continue à parler de cette réforme des retraites et surtout aussi de ce qui nous attend demain en termes de perturbations. On fait le point dans un instant. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. 18h16, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, Fabien Villedieu, représentant Sudrail, Éric Revel et Louis Dragnel d'Europe 1. Demain aura lieu une nouvelle journée de mobilisation contre la fameuse réforme des retraites. À quoi faut-il s'attendre demain? La réponse avec Vincent Fernandez.
Une fois de plus, il sera difficile de se déplacer en train demain. La SNCF prévoit la circulation d'un TGV et Ouigo sur deux, un TER sur trois en moyenne. En Ile-de-France, seul un RER A et B sur deux circulera, 1 sur 3 pour le RER C. Le métro parisien sera aussi particulièrement perturbé. Certaines lignes ne seront ouvertes qu'aux heures de pointe, plusieurs arrêts ne seront pas desservis. Des difficultés qui poussent les Parisiens à anticiper leur déplacement.
Je vais prendre ma voiture ou ma moto, parce que les transports en commun, ça va être une galère. Et même en voiture, ça risque d'être une galère. Voilà, donc je vais partir 2 heures plus tôt pour être sûr d'être à l'heure à mon rendez-vous de demain en Seine-et-Marne.
C'est insupportable, quoi. C'est toujours les mêmes qui font grève et c'est toujours les mêmes qui sont emmerdés, ceux qui bossent, voilà.
J'ai la chance de pouvoir faire du télétravail, donc je vais rester en télétravail.
Dans la rue, plus d'un million de manifestants sont attendus, jusqu'à 70 000 à Paris, avec 200 à 400 personnes radicalisées qui pourraient venir pour en découdre avec les forces de l'ordre. Les autorités se préparent à une mobilisation inférieure aux précédentes, car beaucoup de manifestants pourraient privilégier les rassemblements de samedi prochain.
Alors, Frédéric Souillot de Force Ouvrière, vous misez sur une mobilisation importante demain, et quand vous entendez les gens qui disent bah, « c'est toujours les mêmes, ceux qui bossent, qui sont embêtés », qu'est-ce que vous leur dites ?
Je leur dis que ceux qui manifestent, c'est aussi des gens qui bossent. C'est des gens qui veulent pas voir reculer l'âge de départ et qui veulent pas qu'on remette en cause leur protection sociale collective. Donc, je sais pas ce que fait ce monsieur, mais s'il était travailleur avec lien de subordination, il serait dans la rue avec nous.
Fabien Villedieu, un peu moins de monde dans les rues et du côté des transports en commun, circulation perturbée, mais samedi prochain, il n'y aura pas de perturbation dans les transports. Pourquoi ?
Bah, un peu moins de monde demain, enfin vous allez vite en besogne quoi.
Non.
Essayez au moins voir demain.
Vous misez sur le million comme la dernière fois, un peu plus.
Oui, moi j'ai toujours le million, mais je pense que le million sera encore plus dépassé le samedi. Voilà, ouais. Alors samedi c'est un chassé-croisé. À la SNCF, les organisations syndicales, on a décidé de pas appeler à la grève. Voilà, pour deux raisons. La première, c'est pour se donner toutes les chances que ça soit une réussite, donc qu'il n'y ait pas de problème de galère, de transport, et qu'on puisse venir en famille, parce que samedi, alors ça sera le cas demain, mais particulièrement samedi, c'est une manif populaire en famille. On vient avec ses parents, ses grands-parents, ses enfants, ses petits-enfants, tout le monde. Voilà, donc si on veut que tout le monde vienne et que ça ne galère pas, il faut qu'il y ait des transports, c'est pour ça qu'on n'appelle pas la grève. Et une deuxième chose, voilà, on fait un peu de stratégie, je pense que le gouvernement attendait à ce qu'on fasse grève pour mettre l'opinion publique contre nous. Bah, pas de bol, on ne lui donnera pas cette occasion de faire montrer à les gens qui partent et qui vont galérer pour faire peser l'opinion publique contre nous. Non, on sera là, on sera en manif pour ceux qui peuvent, et puis on assurera nos missions pour amener beaucoup de gens dans cette grande manif populaire qui aura lieu samedi.
Monsieur Souillot de FO, c'est plutôt malin de ne pas faire grève dans les transports le samedi pour rester populaire, tout simplement, que les Français restent de votre côté.
Je pense que l'intersyndicale, elle est très très maligne depuis le début. Quand on nous avait dit entre le 19 et 31, 11 jours, pendant 11 jours, on a mobilisé, on a informé, on a expliqué tout ce qu'il y avait dans cette réforme qui faisait qu'on ne gagnait rien à la fin. On va tous prendre 2 ans. Donc, on a une stratégie, elle est maligne. Ce qu'il vient d'expliquer, on l'avait déjà prévu sans le dire, parce que c'est aussi les discussions qu'on doit avoir en intersyndicale et après dans les branches. Et comme ça, on n'entendra pas « vous avez pris en otage les Français qui partaient en vacances ».
C'est comme ça, vous coupez l'herbe sous le pied des aides du gouvernement et des journalistes. Louis Dragan, une petite question.
Non, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est effectivement, premièrement, vous soignez votre image, ce qui n'était pas toujours le cas par le passé. Et globalement, quand on regarde les enquêtes d'opinion, votre cote progresse. Alors qu'effectivement, il y a des blocages, il y a quand même beaucoup de Français qui sont contraints par ces actions-là. Et le deuxième élément qui me frappe, c'est que au cours, en tout cas, des deux précédentes manifestations, il y avait d'ailleurs une syndicalisation, le nombre de personnes qui étaient syndiqués, qui faisaient grève, qui était beaucoup plus faible à la deuxième manifestation qu'à la première. Et pourtant, il y avait beaucoup plus de monde dans les manifestations. Et donc, ça montre en fait qu'il y a un engouement populaire derrière la contestation à la réforme des retraites. Et ça, pour le coup, c'est vraiment deux choses qui sont assez noires pour le gouvernement. Premièrement, il n'arrive pas à montrer que les syndicats sont nuisibles au pays. Et deuxièmement, ce n'est pas uniquement la manifestation de la CGT ou de FO. Il y a beaucoup de Français. Et puis, ce qu'on a observé aussi, notamment lors de la dernière manifestation, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de manifestations très locales. En gros, c'est la manif près de chez vous. Et ça, ça a eu un effet multiplicateur, et donc ça a bien fonctionné.
Éric Revel ?
Oui, alors si je peux dire un mot. Monsieur Souillot, tout à l'heure, vous avez commencé votre propos très intéressant, en disant « je fais pas de politique, je fais de la politique syndicale ». Et vous avez expliqué que la rue ne voulait pas de cette réforme, et que si le gouvernement est mieux entendu, on n'assisterait pas à ce genre de débat polémique à l'Assemblée nationale. Mais juste, et après je vous donnerai mon opinion, mais peu importe cette opinion, sur la réforme des retraites. Mais quand même, par principe, il faudrait quand même que dans une démocratie, sauf si vous n'êtes pas d'accord avec moi,
que ce soit pas la rue qui impose ces lois, mais on a élu des députés à l'Assemblée nationale précisément pour nous représenter. Donc j'espère que vous êtes d'accord pour dire que la rue ne peut pas faire la loi dans un pays comme le nôtre et que les députés qu'on a envoyés, quel que soit leur bord politique, sont là pour ça. C'est mon premier point. Puis comme j'aurais pas trop la parole, je vais vous dire une autre chose.
C'est que... Ah, ça y est, c'est Galimero, le retour.
Non, c'est que, je vais vous dire.
On coupe la parole.
Vous voyez, c'est très intéressant parce que, je connais bien les arguments de Monsieur Hillieu et c'est vrai que l'image de Monsieur Hillieu grandit, s'adoucit même, je trouve. Et si on vous demandait, tiens là, à tous les deux, vous êtes d'accord pour dire, puisque vous faites des propositions, qu'il faut une réforme des retraites. Pas celle-ci, mais il en faut une. Vous avez avancé l'idée très intéressante de l'employabilité des seniors, où effectivement la France est parmi, ou pratiquement le dernier des pays de l'OCDE.
Allez, on va laisser peut-être répondre à l'invité,
Eric. Monsieur Villieu, lui, sa proposition, c'est plutôt une augmentation des cotisations. Si on vous laissait décider d'une réforme, les syndicats, vous êtes certain que vous seriez d'accord sur les mesures
à prendre ? Alors, monsieur
Souillot. Alors, oui.
Et faux.
Oui, oui, on serait certain sur les mesures à prendre. On arriverait à se mettre d'accord sans problème.
Vous avez essayé déjà ?
Alors, on va laisser terminer. Avec...
Regardez, l'intersyndicale depuis mi-juillet. Non. Là, aujourd'hui, on ne parle de l'intersyndicale que sur la réforme des retraites. Mais depuis mi-juillet, le premier communiqué de presse où il ne manque aucune organisation syndicale, c'est sur la loi pouvoir d'achat. Mmh. Le second, le 9 septembre... On explique les choses sur l'assurance chômage, y compris ceux qui avaient été la veille au CNR, avaient signé ce communiqué de presse. Maintenant, sur
la réforme des retraites.
Sur la vision du social. Mais en fait, ce n'est pas les retraites
qui sont... Quelles mesures à mettre en avant ?
Ce n'est pas les retraites qui sont un problème, c'est l'emploi en général. Mmh. Et les cotisations, et la conditionnalité des aides publiques aux entreprises. Mmh. Aujourd'hui, on nous parle du... montant dans le PIB de la retraite. On ne nous parle pas des 163 milliards d'aides publiques aux entreprises sans aucune conditionnalité.
Donc vous les supprimez ?
Non, je ne les supprime pas, mets des conditions. Mmh. L'emploi, la localisation, les conditions de travail et les salaires.
D'accord. Donc,
et après, on paye plus de cotisations
donc, si
et on n'a pas de problème de déficit du régime.
Si on vous confie les clés du camion... Si on les confie à l'intersyndicale, il n'y aura aucun problème entre vous pour vous mettre d'accord sur les mesures qu'il faut prendre pour éviter que le système par répartition, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, peu importe les scénarios, bascule. Okay. Vous êtes tous d'accord ?
Alors. Et après, monsieur.
Non, allez-y, monsieur Souillon. Vous n'êtes pas, tous d'accord. Pas tous d'accord sur les mesures.
Si, nous serons d'accord sur les mesures. Mm-hmm. Regardez, le Conseil d'orientation des retraites, sur 2021 et 2022, nous annonçait un déficit.
Oui, oui.
5 milliards. On a fait plus 4. Mm-hmm. Ils sont juste plantés de 9. Mm-hmm. Donc les prévisions...
Non, mais je vous parle des mesures entre
attends,
nous.
Mais les prévisions à 70 ans. Bah, déjà, on serait tous d'accord pour dire pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation.
Mais après, une fois qu'on a dit ça.
Eh bien, une fois qu'on a dit ça, on garde les anciens dans les entreprises, on remet en place la retraite progressive, FNE, ASFNE, l'ARP, le départ d'un ancien pour l'embauche d'un jeune, et des mesures, on va en trouver plein, et on arrête les allègements de cotisation. Et sur le temps partiel imposé, eh ben on demande aux employeurs de cotiser complètement pour les retraites de ces salariés à qui on impose le temps partiel.
Alors, M. Villieu, et vous, votre vision de la réforme, qu'il faudrait pour sauver notre système ?
Moi, je trouve que pour l'instant, on se défend plutôt bien. Hein, on est plutôt d'accord sur les ressources. Mais oui, parce que c'est important, parce qu'il n'y a pas d'explosion. Il y a un problème de ressources. Voilà. Aujourd'hui, le gouvernement, il dit, il n'y a qu'un seul levier, c'est celui de travailler plus longtemps. Mmh. Voilà. Bon, si on arrive à faire entendre qu'il y a peut-être d'autres possibilités,
Allez-y, par
les 157 milliards de cadeaux qui sont donnés sans aucun contrôle, parce que c'est open bar.
Ni conditions.
Bah, peut-être, moi, je ne dis pas qu'il faut tout prendre.
Aux entreprises.
Mmh. Aujourd'hui, il y a 157 milliards d'aides aux entreprises. Voilà, pour embaucher, je ne sais quoi, mais sans aucun contrôle. Moi, je ne dis pas qu'il faut tout enlever, mais au moins regarder, mettre des conditions. Peut-être certains, il faut les maintenir, d'autres, il faut les retirer. Il y a de la marge là-dessus. On a parlé justement de l'emploi des seniors. Enfin, il y a d'autres possibilités. Moi, ce qui me rend dingue, c'est qu'on a l'impression que non, il y a une seule possibilité, c'est travailler 2 ans de plus et accélérer la réforme de Touraine. Et tout le reste, c'est balayé d'un revers de main. Y compris, je pense qu'on pourrait avoir des propositions qui peuvent être différentes, mais pourquoi
c'est
pas
ça, oui.
C'est aussi ça la démocratie.
Ah bah,
mais en tout cas, il y a un point où on
bien
est
sûr.
Il y a un point
voilà.
Qu'on a
il y a des propositions qui sont différentes. Vous êtes d'accord, monsieur Villieu ? Il y a des propositions qui sont différentes.
J'admets le fait c'est que ça pourrait arriver.
Eh bah, bien sûr.
Il y a un point qui est commun. Il y a un point qui est commun.
Bien sûr.
C'est qu'il y a d'autres possibilités.
Mais vous savez très bien. Mais vous savez très bien que c'est pas les mêmes propositions en réalité. Bah sinon, il faut fusionner avec Sudrail.
Mais non, on est pour le
comme ça, vous aurez plus d'adhérents.
Mais on est pour le pluralisme. Politique. Pourquoi on serait non, contre le pluralisme syndical,
syndical.
Non, non, mais je...
Politique syndicale.
Non.
Et d'ailleurs, sur ce point de vue, on disait quasiment les syndicats étaient morts, on pesait rien. En attendant, qui met plus d'un million de personnes dans la rue, ça reste quand même les organisations syndicales.
Bah, Emmanuel Macron, voilà. C'est grâce à Emmanuel Macron.
Vous voulez terminer votre réponse
pour le coup, c'est un travail en commun. Quoi.
Voilà. Vous voulez terminer votre réponse. Non, sur ce que disait Éric Revel, sur le Front syndical uni.
Le Front syndical... Aujourd'hui, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Si vous regardez les propositions des organisations syndicales qu'on a faites pendant les concertations, regardez le squelette. C'est l'emploi, les cotisations, la conditionnalité des aides publiques et l'enjeu, l'emploi des seniors. Alors, ce n'est pas moi qui l'invente, hein. C'est le bulletin d'information du Sénat qui le dit. Réforme des retraites, l'enjeu, emploi des seniors. On a le plus bas taux d'emploi.
Mais je sais bien.
50% de ceux...
56%.
Mais
laissez-le terminer une phrase.
50% de ceux qui liquident leur retraite aujourd'hui ne sont plus en emploi. Mmh.
Mais M. Souillot, vous le savez très bien, vous avez une grande expérience syndicale.
Comment?
Vous avez une grande expérience syndicale. L'unité syndicale, c'est toujours plus facile à mobiliser lorsqu'on va appeler à la manifestation qu'ensuite à se retrouver pour discuter, par exemple, des finalités d'une réforme des retraites.
On a compris votre démonstration, Eric.
Mais je suis d'accord avec votre démonstration. Regardez sur la loi pouvoir d'achat, on appelait à la mobilisation et à la grève. Et pour autant, on a fait un communiqué intersyndical où il ne manquait aucune organisation. Ça n'était jamais arrivé.
Alors, Frédéric Souillot est là de FO, Fabien Villedieu de Sudrail aussi. On fait le rappel des titres de l'actualité de 18h30 et on se retrouve pour continuer ce débat sur la réforme des retraites.
Un trafic perturbé demain dans les transports, conséquence d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À Paris, seules 3 lignes de métro circuleront normalement sur le RER. 1 train sur 2 seront en service sur la ligne A et B, 1 sur 6 sur la ligne D à la SNCF. 1 TGV sur 2 circuleront. Des perturbations moins importantes que les précédentes journées de grève. Des centaines de policiers se sont rassemblés ce lundi en France. Ils protestent contre la réforme de la police judiciaire. La semaine dernière, 2 rapports jugeaient le projet inadapté. Ils prévoient de placer tous les services de police d'un département sous l'autorité d'un seul directeur départemental de la police nationale. Et puis l'Assemblée générale de l'ONU a observé une minute de silence cet après-midi en hommage aux victimes de 2 séismes. Au total, plus de 2300 personnes sont mortes en Turquie et en Syrie selon les bilans provisoires. De nombreux pays se mobilisent pour apporter leur aide. La France va envoyer 139 secouristes sur place.
Voilà pour l'actualité. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Monsieur Souillot de FO et Monsieur Villedieu de Sudrail. On va rentrer dans le dur, on va parler des carrières longues, de la pénibilité. Ce que propose la première ministre comme une amélioration, est-ce que ça vous convient ou pas? La réponse dans un instant dans Punchline, à tout de suite. 18h35, on se retrouve en direct dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, Fabien Villedieu, représentant de Sudrail. J'aimerais qu'on écoute un témoignage, monsieur Souillot, monsieur Villedieu, celui de Paul Lefebvre. Il a 37 ans, il est carreleur à Saint-Omer, qui s'est beaucoup mobilisé lors des dernières manifestations. Et il demande au gouvernement d'alléger la réforme des retraites parce que pour lui, aller jusqu'à 64 ans, c'est tout simplement inenvisageable. Écoutez-le.
Je porte entre 6 000 et 8000 tonnes de matériaux, de colle, de carrelage par an. Je pense que la réforme des retraites, ça devrait être plus allégé pour les artisans, les métiers pénibles. J'ai 34 ans, je suis dû à prix d'une sciatique. Macron, il devrait venir faire un tour sur les chantiers. Que le gouvernement, les premiers à se serrer la ceinture. Parce qu'eux, ils profitent bien, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils vivent sur notre dos. Et le gouvernement devrait un peu arrêter aux données et de donner au social, de récompenser un peu plus ceux qui ont travaillé toute leur vie
Et le gouvernement devra arrêter de s'occuper un peu des affaires du monde et s'occuper un peu plus de son pays.
Voilà, ça c'est pour Emmanuel Macron. Frédéric Souillot, Force ouvrière. La pénibilité, notamment des artisans, elle est prise en compte là ou pas?
Ben non. Les 7 critères de pénibilité qu'on avait, c'est la majorité du quinquennat précédent, on a même, qui les a fait sauter. Et aujourd'hui, quand on entend, on va revenir sur la pénibilité ou les carrières longues, oui, mais avec 2 ans de plus. C'est dans tous les cas, recul de l'âge de départ à 64 ans, et après on verra les critères de pénibilité et de carrière longue. Donc, non, le gouvernement ne prend pas en compte ni la pénibilité, ni les carrières longues. Et je comprends bien ce jeune homme. On l'explique depuis longtemps, mais c'était déjà en 2010, quand on nous a dit « vous allez reculer de 2 ans, on va mettre en place les critères de pénibilité et de carrière longue ». 13 ans plus tard, il n'y a rien. Donc la pénibilité, elle n'est pas prise en compte.
Et la Première ministre qui dit qu'elle a bougé sur les carrières longues, elle dit « ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans partiront » à 63 ans au lieu de 64.
Ouais, c'est ça.
Non, bon, vous la croyez pas ?
Déjà, en mathématiques, je ne sais pas comment fait la Première ministre, mais sur 12 mois, 5 trimestres, c'est nouveau. Ou alors, peut-être les années bissextiles, si elles s'étendent, mais...
Ils sont quand même 60 000 personnes.
Ah bon ?
30 000 personnes. Oui. C'est l'estimation qu'elle a donnée. Ouais,
d'accord. Et aujourd'hui, ils partent à quel âge ?
Aujourd'hui, ils partent à...
60 ?
Non, ils partent à 62 ans.
Eh bien, voilà. Donc, quelle que soit la mesurette que va annoncer la Première ministre, de toute façon, c'est toujours avec un recul de l'âge de départ. Carrière longue, moi j'en suis une. Aujourd'hui, c'est 60 ans. Demain, c'est 61 ans et 10 mois. Et j'ai commencé à bosser, j'avais 16 ans. Donc, quelle que soit l'annonce de la Première ministre, c'est toujours avec un recul de l'âge de départ.
Et si elle l'annonce, c'est pour aller draguer les voix des Républicains, selon vous, M. Souillot ?
Je ne sais pas qui elle essaie de draguer, mais en tout cas, pour les organisations syndicales, on n'a plus de nouvelles.
Mais les Républicains, ils auraient intérêt à voter cette réforme ?
C'est plus facile pour moi de faire le marché le samedi matin que le député de la 5e circonscription de Côte d'Or. Je l'ai encore croisé samedi, c'est une dame. C'est compliqué.
D'accord. Fabien Villedieu, sur la pénibilité, les carrières longues, on a entendu ce témoignage d'un carreleur qui dit « moi, je ne pourrais pas aller à 64 ans ». Est-ce que l'amélioration proposée par Elisabeth Borne est suffisante ?
Non. Surtout que c'est... Enfin, pour moi, une avancée, c'est quand vous travaillez moins. Voilà. En fait, c'est juste vous passez de 62 à 63, donc vous avez une année de plus. Faire passer une avancée alors qu'en fait, vous grattez une année de plus. Mais moi, je pense que le témoignage, voilà, l'artisan, il a tout dit, quoi. Voilà. Il ne peut pas travailler. Les charges lourdes. Les charges lourdes, ça a été retiré en 2017. La pénibilité. Ils l'ont même pas remis.
Non.
Ils l'ont pas remis. C'est pas considéré. Alors, vous aurez le droit à une visite médicale et si le médecin, il constate que vous êtes cassé, il sera obligé de vous arrêter et vous partir en retraite. Mais si vous n'êtes pas cassé, les charges lourdes, vous pouvez porter du ciment. Voilà, il n'y aura pas de souci. Jusqu'à 64 ans.
Donc la réforme est injuste.
Donc c'est
toujours.
Même cynique. Ils auraient pu revenir. Ils auraient pu dire, en 2017, on s'est trompé. Les 4 critères de pénibilité, dont les charges lourdes, finalement, on va les remettre. Non. Ils les ont pas remis. Ils ont juste dit, voilà, 61 ans, tu feras une visite médicale. Et si le médecin il dit que tu es complètement inapte parce que tu es cassé par le travail, là seulement tu auras le droit. Mais si tu es pas cassé par le travail, tu iras bosser jusqu'à 64 ans. C'est un peu cynique quand même. Et je trouve, c'est bien. En fait, ces témoignages, c'est tout ce qui donne de la force à la mobilisation. Parce qu'en vrai, alors il y a des endroits où effectivement, je conçois, on peut avoir des boulots qui sont pas hyper... Mais il y a plein d'endroits où les métiers sont pénibles, et pas uniquement physiquement. Et les gens, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas, ils ne sentent pas, parce qu'ils ont un stress de dingue, parce que physiquement, ils sont cassés, parce qu'il y a une pression, voilà. Et ils arrivent déjà même pas à se projeter à 62 ans. Donc se projeter à 64 ans, parce que finalement, les seuls à qui on va pas demander d'efforts, c'est qui ? C'est les entreprises. Parce que pourquoi les gens, aujourd'hui, ne travaillent déjà pas à 62 ans ? Parce qu'il y a plein d'entreprises, dès qu'elles peuvent se débarrasser des seniors, elles s'en débarrassent. Parce qu'il y a tellement de cons...
Parfois avec la complicité des syndicats. dans des... Vous avez signé, par exemple, pour des plans de départ qui permettent de partir généreusement, parfois à 55 ans. Non, mais objectivement, c'est
normal.
Vous a parfois,
de la part des organisations syndicales, lorsqu'il y a des collègues qui vous disent « j'ai possibilité de partir avant », c'est normal qu'on accompagne ça. Mais aujourd'hui, il y a un peu une hypocrisie où, finalement, dès qu'on peut se débarrasser des seniors, on le fait dans le monde du travail. Et aujourd'hui, alors, on va exiger, il y aura des sanctions si, effectivement, l'index n'est pas publié. Et par contre, si l'index il dit que les chiffres sont pas bons, d'accord, il y aura aucune sanction. Donc finalement, les seuls à qui on demande pas d'efforts, c'est quand même les principaux responsables du fait qu'il n'y ait pas beaucoup, en tout cas pas suffisamment, de seniors dans le monde du travail.
Monsieur Souillot, sur ça, sur le taux d'emploi des seniors, l'index c'est une solution ou pas ? Est-ce qu'il faut peut-être pas inciter les entreprises autrement à embaucher les seniors ?
Regardez l'index égalité professionnelle et l'égalité de salaire homme-femme. Donc l'index là. En plus, j'ai lu ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel. Il y a toutes les chances que ce soit recalé, parce que c'est un projet de loi de finances rectificative de la Sécurité sociale. Donc l'index, ce serait un chèque en blanc qu'on signerait au gouvernement. Dans une prochaine loi, il la mettrait peut-être en place. Et encore, s'il n'y a pas de sanctions pour les entreprises. Maintenant, sur ce que vous avez dit, sur les plans sociaux et les plans de départ volontaires après 55 ans. Oui, pendant des années. Mais on demandait à qui de financer ? Aux entreprises, on ne mettait pas les licenciés à la charge de la collectivité et de l'assurance chômage. Là, le taux d'emploi des 55-64 ans, c'est des ruptures conventionnelles souvent forcées, des salariés qui sont maladie ou invalidité, et pour eux, qu'est-ce que ça va changer le recul de l'âge de départ ? On va les garder 2 ans de plus en maladie ou en invalidité, et 18% d'entre eux, qui sont aux minima sociaux et pour certains au RSA. Mmh. Vous avez vu votre mère ou votre père bosser toute sa vie et terminer au RSA parce qu'il était licencié à 55 ou à 56 ans. Perdre son emploi, être au chômage ou au RSA, ce n'est pas un choix. Mmh. On est licencié, ce n'est pas un choix.
Mmh. Louis Dragnel.
Non, je crois que tout le monde est à peu près d'accord avec vous là-dessus. La question, c'est que tout le monde n'est pas dans la situation terrible que vous décrivez. Il y a aussi des gens qui peuvent travailler un peu plus longtemps. Je voulais vous poser à tous les deux la même question. Est-ce que vous pouvez me citer un travail qui n'est pas pénible ?
Allez-y, M. Souillot.
Ça m'intéresse.
Secrétaire général de Force Ouvrière.
Mais vous avez bossé avant.
Moi, j'ai travaillé. Oui. Non,
oui.
Si je faisais de la provocation, je dirais journaliste sur un plateau télé, mais là, c'est vraiment de la provocation. Non, je pense qu'il y a, beaucoup de métiers qui sont pénibles. Il y en a qui sont un peu plus pénibles que d'autres. Voilà. Oui. Je pense que porter des sacs de ciment toute la journée jusqu'à 64 ans, enfin, c'est difficile. Moi, ici, bon, l'ambiance est globalement assez sympa. Voilà, même on s'engueule un peu, mais ça va.
De moins en moins.
Non, on s'engueule de moins en moins. Mais voilà, c'est peut-être plus facile de se projeter jusqu'à un certain âge aussi. Voilà.
Mais ça
aussi, se rendre compte.
Bien sûr, en fait, je vous pose cette question parce que bien sûr qu'il y a des métiers physiques, le reportage témoigne par lui-même. Enfin, il n'y a même pas de débat et on comprend bien que des gens qui portent des charges lourdes, à 62 ans, ils n'ont plus l'énergie, plus la force, plus les capacités de le faire. Mais on voit quand même s'installer dans le débat public tout le monde qui dit, mais en fait, moi, mon travail est pénible. Et on voit s'installer aussi dans le débat le fait que tout le monde dit, en fait, finalement, le travail, c'est horrible. Et je trouve, moi, à titre personnel, qu'il y a quelque chose d'assez négatif aussi qui s'installe. Globalement, il y a aussi des gens qui aiment leur travail. Il y a des gens qui s'épanouissent dans votre travail. Même, je vois ce que vous faites dans vos fonctions. Même si vous êtes contre la réforme des retraites, vous êtes tout le temps souriant. Vous êtes heureux d'être là, objectivement. Non, mais...
Au
travail.
C'est du travail.
Mais c'est du boulot ce que vous faites. Mais je vois
vous
satisfait.
Mais aujourd'hui, si vous vous sentez bien dans votre travail,
vous pouvez continuer.
Ben vous pouvez continuer jusqu'à 70 ans. Mmh. Et c'est comme ça depuis 2010. Et l'employeur ne peut pas vous forcer à prendre votre retraite. Donc, s'il y a des gens qui s'épanouissent et c'est tant mieux, eh bien qu'ils continuent. Mmh. Aujourd'hui, on avait tout un tas de salariés qui, entre 62 et 64, parce qu'ils avaient une carrière hachée, faisaient de la surcote. Ils restaient au boulot. C'est que 50% de ceux qui y sont, parce que les autres sont déjà sortis. Ils restaient au boulot pour faire de la surcote. Aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Si la réforme passe, de 62 à 64, il n'y aura pas de surcote, puisqu'on va vous demander de bosser. Et pour autant... de 64 à 60.
Vous parlez jusqu'à 70 ans. Oui. Non, mais je reprends votre exemple. Mais si vous êtes honnête intellectuellement là-dessus.
Ben moi, je suis honnête intellectuellement. C'est à chaque fois un recul de l'âge de départ.
Non, mais vous pouvez prendre votre retraite et reprendre un travail derrière. Ça existe.
Oui, ça existe, bien
ça
sûr.
Ça existe. Alors, vous cotisez à vide, parce qu'évidemment, vous avez pris votre retraite.
Avec la loi, vous ne cotiserez plus à vide.
Alors, vous ne cotiserez plus à vide avec
non,
la loi.
Non.
Sous certaines conditions.
Oui, oui, oui.
Il y a des conditions.
Vous avez raison. Non, mais
il y a des conditions.
Vous êtes trop jeune, Louis.
Ça, c'est comme les assurances. C'est comme les assurances, faut toujours
garder les clignotants.
Et à la fin, t'es pas assuré, quoi. T'as le sinistre et t'es pas endommagé, quoi.
Je vais poser une question à tous les deux. Bon, évidemment, l'exemple qu'on a vu là, il est terrifiant.
Une question courte, hein, Eric.
Bah oui, ça y est, bah voilà.
Non, allez-y.
Non. Alors, en fait, il y a toutes les carrières pénibles, évidemment, mais moi, je trouve qu'il manque quelque chose dans le droit social français, que connaissent d'autres pays, c'est la santé au travail, la santé des travailleurs. Ouais. Je trouve que les entreprises, alors ça ne gommera pas les carrières pénibles, mais est-ce qu'elles ne devraient pas faire un effort supplémentaire pour veiller... C'est quoi le contact aujourd'hui ? C'est le médecin du travail. Bon. Mmh. Mais est-ce qu'on ne devrait pas mettre en place une politique en amont pour veiller à la santé des travailleurs, M. Souillot?
Écoutez, là, dans l'agenda autonome, on négocie un accord. Accident du travail, maladie professionnelle, pour parler de prévention plutôt que de réparation.
Bon, ben, je suis faux, alors.
Eh ben, voilà. Mais vous pouvez... On négocie ça.
Progressivement, je crois qu'il va finir syndicaliste, Éric Revel.
On négocie ça, pourquoi? Sur accident du travail, maladie professionnelle, à la fin... On s'aperçoit, les salariés qui sont usés, les 22% qui liquident leur retraite, qui sont en maladie, longue maladie ou invalidité, ben là, c'est réparation. Donc, si on travaille sur la prévention et la pénibilité, notamment dès le début, y compris les horaires décalés et tout ce qui va avec, eh bien, là, on va faire de la prévention et surtout, on ne va pas parler d'économie puisqu'il y a de l'excédent budgétaire sur accident du travail et maladie professionnelle. Eh bien, on pourra faire de la reconversion des 55 ans et plus qui ont la compétence et le rôle de père vis-à-vis des plus jeunes qui arrivent.
Alors, c'est vrai que c'est une question qui est complexe et une des difficultés qu'il y a, moi je vois à la SNCF, c'est que en fait on est payé à la production, c'est-à-dire les conducteurs de train, plus vous conduisez des trains, les gens ne le savent pas, et plus vous êtes payé. Voilà. On est payé à la tâche. Voilà. Et la difficulté qu'il y a, c'est qu'avec les années, alors ça c'est bien quand t'es jeune parce que t'es hyper motivé, mais avec les années, bah, t'as un peu moins d'énergie. Mm-hmm. Ce qui fait que si le collègue, il est descendu de machine, il arrête de conduire des trains, il perd 1500 euros.
Oui.
Par mois. Il perd 1500 euros par mois s'il arrête de conduire des trains en fin de carrière. Mais c'est partout pareil, quelqu'un qui bosse en 3-8 de nuit, vous êtes mieux rémunéré la nuit, ce qui est normal. Voilà. Bah, en vieillissant, bah, les nuits que t'enquillais bien à 20 ans, à 40 ans, c'est un peu plus dur. À 50 ans, tu fais la tête et à 60 ans, tu n'y arrives pas. Eh ben, vous arrêtez de faire des nuits, vous perdez de l'argent. Voilà. Et c'est ça la difficulté, notamment dans le travail des seniors. C'est que, vu le monde du travail qu'on a, où on t'est quand même payé à la carotte, hein, faut dire ce qui est, hein, si vous voulez que les gens ils bossent la nuit, il faut donner à la carotte, autrement ils viennent pas bosser la nuit, ou les week-ends, ou ainsi de suite. Eh ben, en fin de carrière, vous avez moins d'énergie. Eh ben vous arrêtez d'avoir ces horaires atypiques, eh ben vous perdez de l'argent. C'est aussi la difficulté justement qu'il y a, notamment dans le travail des seniors.
Encore une question, M. Souillot, à propos de la clause de revoyure qu'on entend beaucoup. Est-ce qu'il faut une clause de revoyure? Et ça voudrait dire que cette réforme ne sert donc à rien? On va la voter ou pas, peut-être? Et il faudra se redonner rendez-vous en 2027?
Ben, il ne faut pas se donner rendez-vous en 2027. En 2027, je crois qu'il y a d'autres élections.
A priori, oui.
Et il y a quelques candidats déjà, enfin, j'ai cru entendre. Si on dit clause de revoyure, ça veut dire qu'on a une nouvelle réforme des retraites en 2027. Ben ça, c'est pas possible, quoi. Pour retirer celle-ci, ouvrir des négociations sur l'équilibre et la justice, parce que là, cette réforme, elle est tout sauf juste, elle est injuste et brutale. Il n'y a pas d'autre sujet. Et discuter maintenant de l'égalité. Mais sur l'égalité entre les hommes et les femmes, puisque si demain, il y avait égalité de salaire, à travail égal, salaire égal, c'est 6 milliards de plus dans les caisses. Tous les mois. Ce n'est pas autre chose.
Et vous pensez que cette réforme peut ne pas être adoptée par le Parlement?
Alors écoutez, je disais que ce n'était pas un métier pénible, secrétaire général de Force ouvrière, mais en plus on y est enthousiaste et optimiste. Et je ferais autre chose si je pensais qu'on ne pouvait pas arriver à faire reculer le gouvernement.
Et c'est la mobilisation de la rue qui peut le faire reculer?
Mais nous allons gagner, oui, par la mobilisation.
Fabien Villieu?
Ah, moi, j'en suis persuadé. Si les gens jouent le jeu, s'ils se mobilisent, et je ne vois pas, enfin, pour l'instant, ça marche plutôt bien, voilà, le gouvernement, il n'aura pas le choix, il reculera. Après, c'est sûr, si les gens ils restent devant leur téléviseur et ne se mobilisent pas, bah, pourquoi ils retireraient sa loi? Voilà, il n'y a aucun intérêt. Mais aujourd'hui, on s'achemine pas vers là, vers ça. On a deux rendez-vous demain et samedi. Je pense que aussi bien demain et samedi, ça va être un raz-de-marée. Je ne peux même pas imaginer que le gouvernement prenne pas en compte tout ça. Enfin, il y a un moment donné, il faut être raisonnable, quoi. Il faut être raisonnable. Il faut écouter la population. Parce que si on ne l'écoute pas, enfin, qu'est-ce qui, les gens, ils deviennent fous, quoi. À force de manifester, de venir dans des, et que personne vous écoute. Enfin, les gens, ils vont devenir dingues. Donc, oui. Soyons raisonnables, écoutons la population.
Louis Dragnel, c'est un scénario envisageable que l'Assemblée, puis le Sénat, puis l'Assemblée ne votent pas ce texte?
Alors, de toute façon, ça peut se produire, évidemment, mais le gouvernement a cette possibilité d'actionner l'article 49.3 de la Constitution, ce qui serait quand même un aveu d'échec, même d'impuissance politique terrible, parce que le gouvernement a essayé de la porter à bout de bras, cette réforme, a essayé de convaincre un peu tout le monde, bon, avec un succès plus que mitigé, puisque globalement, ça ne convainc pas les Français, ce débat en témoigne. Et donc, en fait, ça voudrait, utiliser l'article 49.3, c'est vraiment l'article, c'est aussi le moyen le plus brutal qui existe. Et donc, je pense que paradoxalement, si le gouvernement devait utiliser l'article 49.3, là, pour le coup, dans la rue, ça mobiliserait encore plus de Français qui ne supporteraient pas cette manière de faire, parce que là, c'est plus que du passage en force. Mais, écoutez, pour l'instant, on n'en sait rien, et le gouvernement espère toujours une adoption sans 49.3.
Éric Revel, le pire, ce serait une majorité de 2-3 voix
positives. À l'Assemblée nationale, mais je trouve qu'il y a un problème d'échelle en ce moment. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, le quoi qu'il en coûte, c'est 300 milliards. Bon, il le fallait, hein. La révolte des Gilets jaunes, c'était au plus fort 300 000 personnes, je crois. Hein? Alors, avec des actes violents. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez une mobilisation majeure comme c'est le cas aujourd'hui, le risque aussi, c'est pas souhaitable, hein, mais le risque aussi, c'est que quand vous avez 300 000 personnes dans la rue à l'époque des Gilets jaunes et que vous lâchez, ce qui était le cas du président de la République, 19 ou 20 milliards d'euros, quand vous avez 1 million de personnes dans la rue, le danger, c'est que, évidemment, ils ne soient pas écoutés, ces gens dans la rue, et que donc, ça puisse aussi susciter des mouvements peut-être plus violents et moins pacifiques. Et ça, c'est un risque.
Monsieur Souillot et Monsieur Villieu.
Ben, le risque, il est comme à chaque mobilisation. Aujourd'hui, les organisations syndicales, on entoure, on encadre nos militants et tous ceux qui veulent manifester. Maintenant, si le gouvernement ne l'entend pas, ben, la radicalisation, elle se fera d'abord par la grève et le blocage de l'économie du pays. Quoi qu'on dise les uns ou les autres. Si le gouvernement n'entend pas, c'est comme ça que ça terminera.
Fabien Villieu.
Et oui, parce qu'il y a des prises de conscience collectives qui se font. Rappelez-vous, il y a 15 jours, 3 semaines, je venais ici, vous disiez « Alors, vous voulez bloquer la France ?» Moi-même, j'étais un peu embêté. « Non, je veux pas bloquer, je veux faire grève. » Voilà, c'était un peu de la sémantique, mais j'étais un peu sur le recul. Voilà, maintenant oui, je vous dis « Il faut bloquer ». Et pourquoi je vous dis qu'il faut bloquer? Parce qu'il y a 60% des Français qui disent qu'il faut bloquer. Parce qu'ils ont compris que tu fais une manif, on ne t'écoute pas. Tu fais une deuxième manif, on ne t'écoute pas. Bon, au bout d'un moment, les gens ils disent bah, c'est quoi ce bordel? Il faut bloquer.
Donc il faut bloquer, mais après les vacances scolaires.
Et si ça continue comme ça, dans 3 semaines, c'est les gens qui vont dire bah oui, quand est-ce que vous partez en grève conductible? Parce que si vous refaites des démonstrations de force, une manif le samedi, et que vous faites la démonstration qu'en face, personne ne vous écoute pas, bah, que les gens ne vous écoutent pas, et ben c'est les gens qui vont
mais
dire...
Mais blocage après les vacances scolaires? Pas pendant les vacances
Écoutez,
scolaires, si j'ai bien compris?
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, à Sudrail, on porte la question de la grève reconductible, et il y aura la grève reconductible, on espère, avec d'autres secteurs. La question, c'est pas est-ce qu'on va le faire ou pas le faire,
c'est
la
quand.
Question, c'est quand. Voilà.
Donc,
aujourd'hui,
après les vacances.
On a un débat, je vous le dis, je suis honnête avec vous. Moi, si on me demande mon avis personnel, bah, je dirais plutôt après les vacances scolaires. Voilà, on ne tombe pas dans le piège de l'opinion publique. Mais par contre, après les vacances scolaires, je pense qu'il faudra le faire. Et je pense que la population sera d'accord avec nous.
Monsieur Souillot, pareil.
Et nous, on discute en intersyndical confédéré. On va, pour l'instant, on a mardi et samedi.
Et après, on verra.
Et après, ben, on discutera de stratégie.
Et puis vous reviendrez sur le plateau de Punchline.
Si vous m'invitez, moi je viens partout, on m'invite.
Eh bien, merci beaucoup, monsieur Souillot. Merci, Fabien Villedieu, Éric Revel, Louis de Ragnel. Dans un instant sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info et sur Europe 1, Europe Soir. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more.
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.